Allô les amis, un de mes petits plaisirs, j'en ai beaucoup dans la vie, j'ai beaucoup de chance, c'est de répondre dans le chat avant que le live commence par écrit. Ouais. Mais j'ai pas le temps, il y en a trop. Je suis quelqu'un 666, me pose la question, par exemple, t'as le permis? Le permis d'être un beau gosse? Oui, bien sûr. Désolé, j'ai pas beaucoup dormi, donc je vais dire beaucoup de bêtises. J'espère que vous allez bien. Merci Brandy Hot Dog. 50 mois, nom de Dieu, de soutien, merci à toi, c'est hyper gentil. Pourquoi tu parles pas allemand? Non, parce que Sugar me demandait les paroles de la chanson qu'on vient d'entendre me gênent, et j'ai dit, bah, je comprends pas, je parle pas allemand. Donc, du coup, heureux les ignorants. On s'en doutait que tu allais dire des bêtises. Ah oui, ça c'est sûr. Oh, bah, j'ai cassé mon. C'est bon, j'ai réparé. Oh, j'ai cassé mon OBS, j'ai réparé mon OBS dans le même instant. C'est le too much to swallow, j'avais pas la vision. Ben, c'est dur à avaler, quoi. Même en français, hein. Voilà, ce matin, on m'a refusé ma promotion pour la 15e fois en 15 ans. C'est dur à avaler. Par exemple. En direct de la Nouvelle-Zélande, rapporte-moi des bonnes nouvelles avant d'aller dodo, s'il te plaît. Déjà, salut, j'espère que tu vas bien. Bim! Sommaire. C'était de l'anglais? Ah bon? Je vous développe ça dans un instant. Hop, on le cache. C'est trop tôt pour l'actu. D'abord, on se dit bonjour. Bonjour, comment on fait une revue de presse alors qu'on n'a plus le droit de parler politique? Demande Mitsuhiko. Alors, la loi ne dit pas qu'on n'a plus le droit de parler politique. La loi interdit tout militantisme, tout propos visant à voter pour tel ou tel camp. Ce que nous ne faisons pas ici. Contrairement aux accusations de on sait qui. Le titre sur Chuck Norris, il est incroyable, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, Chuck Norris, RIP. RIP Chuck Norris, RIP Isabelle Mergo aussi. Chuck Norris ne meurt pas, il change juste de dimension, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas un titre de journal, c'est moi qui l'ai fait. Bon, je suis allé piquer sur Internet, hein, je me comprends. Hein. Ouais. Bon, ça va, vous? Comme le sommaire, il est parfois dur à avaler. Mais non, ça se mange tout seul. Ça se mange sans fin, ça, un petit sommaire comme ça. Et je remonte dans le chat, je suis sûr que j'ai des petites pépites. Hein, je vous connais. Hein? Non, ça va. Ça. Non, ça va. Bon tramway, hein, Bourbou. Salut à Chim, Bitonio. C'est Anaï qui parle comme ça. La Chim. Oh, c'est Anaï. Tu te trouves dans le chat. Samedi matin, c'est les foufous. Lundi matin, c'est les foufous. Mardi matin, c'est les foufous. Mercredi matin, c'est les foufous. Jeudi matin, c'est les foufous. On connaît, hein. C'est tous les jours ici. J'espère qu'on aura un point sur Chuck. Alors, hier soir, en pleine soirée gaming, on a lu un article de Libération qui rendait hommage à Chuck Norris. Et on va le relire aujourd'hui. Donc, ceux qui étaient là hier soir, vous êtes spoilés, mais j'ai pas trouvé mieux ce matin. C'était vraiment le meilleur article. Sur Chuck Norris, imaginable. Waouh! Choupi me raconte une histoire formidable. Pardon pour le chat dans la gorge. Écoutez tous, ça parle des municipales. Choupi 42. Hier, il y avait le débat entre le maire sortant et l'opposition dans ma ville. L'un des deux parlait de congé menstruel. L'autre ne connaissait tellement pas le concept qu'il a répété plusieurs fois congé mensuel. Malgré les corrections, j'aurais pas cru qu'un débat pouvait être drôle. Oui, puisque vous voulez parler du congé mensuel pour les femmes, mais pourquoi les hommes n'auraient-ils pas aussi droit à un congé mensuel, du coup, si j'essaie de vous suivre, de vous comprendre? Hein? Pourquoi ce féminisme radical? C'est pas. Oh, j'adore. Waouh. Et en sortie de débat, tu lui dis, mais vous n'avez pas respecté les règles du débat, monsieur. MMG, je viens de te piquer ta blague parce qu'elle est juste géniale. Ok, salut, du spam. Mais on va en parler. Trop impatiente pour le résultat du municipal d'Ati Grégoire. C'est païen, païen, je crois. Pas païen. Alizio Trottmann, on va en parler tout ça ce matin. On va se régaler, on va se régaler. Salut l'enclencheur. C'est un pseudo qui fait peur un peu quand même, hein, l'enclencheur. Hein. Hein, quand même, l'enclencheur, c'est... L'enclencheur, c'est soit un héros de film d'action, soit un héros de film... tu vois quoi. Je pense que Mitsuhiko, tu te fous de ma gueule, hein. Je pense qu'officiellement, on peut le décréter. Ah, Mitsuhiko, je crois que tu te fous de ma gueule. Mitsuhiko écrit à 9h44, bonjour, comment on fait une revue de presse alors qu'on n'a plus le droit de parler de politique? Je te réponds. Je te réponds, je réponds qu'à toi, hein, 9h44. Ah. Et tu écris à 9h49, est-ce qu'on a le droit de parler des municipales ce matin? Donc, officiellement, tu te fous de ma gueule. Ça fait plaisir de voir qu'on est écouté. Ok. Ça fait très bagarre comme pseudo Under the... Hein? Oui. C'est quoi le deuxième type de film? Ben, les films... les autres films d'action, là. Tu sais? Est-ce qu'il y a une émission ce matin? L'enclencheur? Oui, mais j'adore, j'enclenche mes projets. Tu vois, il faut le voir comme ça. Non, non, mais tu enclenches ce que tu veux, l'enclencheur. Moi, je ne juge pas. Hein. Moi, je ne juge pas les pseudos, moi. Hein. Merci, Maditi. Bon, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes heureux d'être en week-end? Oh, le coucou du Vietnam qui fait plaisir. Je suis jamais allé au Vietnam. Dans ma jeunesse, quand j'explorais le monde, je suis allé un peu en Asie, mais en Asie. Waouh! Ouais, enfin, aujourd'hui, c'est marrant comment les sonorités étranges. En Asie, sur le continent. Non, c'est même pas un continent, c'est le continent eurasiatique en plus. Donc, enfin, bref, dans les pays asiatiques, mais en deux mots, voilà. Voilà, c'est ça. Et je suis jamais allé au Vietnam, alors que c'est un pays qui me fascine. Film d'action comme les magasins, vous avez mangé des clowns ou quoi? Salut l'inconnu. Ah, tu connaissais pas le sommaire? T'as vu, c'est cool, hein. Action comme le magasin, mais vous, j'ai des mangeurs de clowns ce matin, j'adore. Quoi? Hein, quoi? Quoi? Le cartel de substances? Hein, quoi? Je comprends rien. Ah, Nicolas, Nick, ah, c'est ce Nicolas-là. Acteur de Buffy contre les vampires, ah oui. Il y a tout le monde qui casse la pipe en ce moment, me dit Sully Vache. Ben, j'espère que ça va pas nous concerner. Hein. Chucky Max me dit, j'ai failli dire qu'il manquait un article sur le changement d'heure ce week-end. Mais c'est pas ce week-end. Oups. Merci beaucoup. T'as déjà fait tous les continents? Oui. Oui. Mais c'est quand j'étais jeune. Hein. Ah oui, en Asie, ça fait toujours deux mots d'ailleurs. Ouais, ça marche pas, ouais. Oui, t'as raison. Mais c'est quand j'étais jeune, ça. C'est quand je. Quand le jeune journaliste que j'étais. Non, pas les incontinents. Non, non, ça c'est plus tard. Ah, même l'Antarctique? Ah bah non. Mais une fois, je suis allé à Lille. Je sais pas si ça compte. Ah non, je suis jamais en Antarctique. Mais je suis allé à Lille une fois. Attends, je suis même allé à Oslo une fois. En Norvège. Ça compte, non? Quand t'étais jeune, mais à l'époque, il n'y avait qu'un seul continent. Oui, c'était la Pangée. Tout à fait. Et je prenais souvent mes vacances là-bas. Du coup, c'était. Les discussions sur les vacances, les voyages, c'était pas fou parce que. À l'époque, quand on voyageait, on disait bah, tu pars en vacances? Ouais. Tu pars où? Ben, je pars en Pangée. Mais en fait, on partait tous en Pangée parce qu'en fait, il n'y avait qu'un seul continent. Donc, les discussions à la machine à café. Bon, on n'avait pas vraiment de machine à café à l'époque. Mais elles tournaient vite court, quoi. On disait, ah, tu sais pas, il y a Michel de la Conta qui part en vacances en Pangée. Et les autres disaient ben, ouais, comme nous tous, quoi, il n'y a qu'un seul continent. Donc, c'était un peu chiant comme discussion. du coup, t'es allé au mammouth du coin pour faire les courses? Non, non, on mangeait du mammouth. Ouais. Et maintenant, la Pangée est devenue Angers. Ouais, vraie info. Alors, la Pangée, avant, c'était le continent unique. Et en fait, il s'est tout réduit. Il est tout rikiki. Tout. Et tout shrink, tu vois. Et en fait, c'est devenu Angers, la ville d'Angers. Ouais. Tout à fait. J'apprends un truc, merci. Rien, tu peux me citer dans une copie pour un concours ou pour un examen, il n'y a aucun problème. Tu peux me sourcer. Un jour, Samuel Etienne nous a expliqué que la ville d'Angers est l'ancien continent unique, la Pangée. Le cœur chrétien me dit fun fact, les pyramides étaient construites qu'il y avait encore des mammouths, mais au fond du monde. Ouais, au fond du monde, à droite même, juste après justement le magasin mammouth. J'ai passé l'âge de passer des examens. On a toujours l'âge de passer des examens. Par exemple, moi, régulièrement, je fais un examen sanguin pour voir si j'en ai encore pour longtemps. Hein? Eh ben, tu vois, il n'y a pas d'âge pour les examens. Puis après, puis cholestérol aussi, tiens. Eh ben, ça aussi, je fais. Examen de la prostate? Oui, bah oui, passé un certain âge, oui, ça doit arriver, ouais. T'as les petits yeux? Oui. Oui, bah non, je fais mes petits yeux du mec qui dort pas beaucoup, mais ça, c'est tous les jours. L'examen de conscience aussi, ouais. On gagne pas grand-chose à faire des examens sanguins. Ah! Sanguin, en deux mots, je l'ai. Hier, j'ai réussi mon examen d'urine du premier coup. Ça veut dire que tu n'es pas dopé hors taxe, ça que tu nous dis? Ou tu as pris le pipi d'un copain? On vous connaît, les amis. Les coquins. Parfait, je passe le concours de prof dans une semaine. Ça me servira peut-être en géographie. Baguette bois, alors. Juste pour baguette bois, Angers, Pangée, ne le mets pas, ne le mets pas. Ne le mets pas. C'est juste. Les autres, oui. Toi, non. J'adore cet humour absurde, je kiffe. Waouh! Alors, j'ai pas compris tous les mots, Thunderbolt, mais ça a l'air très sérieux. J'ai raté ma cytoponction thyroïdienne il y a pas longtemps, je l'ai loupé, du coup, je passe au rattrapage sur le billard. J'espère que ça va quand même. Aussi, un peu à cause de Pio, les petites nuits, pas trop compliquées d'ailleurs. Non, non, ça va, Non, non. Pleine forme. Ah, c'est quoi ce chat dans la gorge encore? Le pollen, ça. Oh, mais! Je l'enlève avant la revue de presse quand même, parce que. C'est dingue, ça. Saloperie. C'est pas un chat, c'est un lion. Mais! Arrêtez de manger les chats tout ronds, Samuel, on te l'a déjà dit, enfin. Parfois, il faut pas mettre les premières urines dans le pot, c'est pas facile de s'arrêter au milieu pour viser le pot ensuite. Hein, quoi? Tu as un chat dans la gorge et je crois qu'il a fait caca. Ok, monsieur Pouc. Oh, force, Thunderbolt. Samuel, c'est Alf en vrai. J'ai la ref, il mangeait des chats. Mais on le voyait jamais manger des chats. Mais on savait qu'il mangeait des chats. Merci, Coben17. Eau chaude, plus miel, plus citron, plus thym, bon pour la gorge. Ah, voilà, je vais arrêter la vodka alors. Mais vous êtes très en forme, hein? Quel kiff, hein? Incroyable. Vodka miel? Ok, d'accord. Il fait chaud ce matin. Alors, c'est l'andropause. Oups! Très bon timing. Mais dis celui qui vient de devenir papa. Waouh, c'est waouh, c'était le timing serré, hein. L'actu n'attend pas. Bah si, Velocity, la preuve, c'est regarde, là, il y a l'actu qui est prête et moi je la fais attendre. Je suis le Chuck Norris de l'actu. Voilà. Ce n'est pas l'actu qui attend pas, c'est l'actu qui attend Samuel Etienne. Je suis le Chuck Norris de l'actu. Ce matin, mon chat m'a mis du caca dessus, me dit Manon des ours. J'ai dû me changer avant d'aller travailler. Voilà, mais samedi matin. Force, force. Oui, le sommaire, là, c'est des bonnes nouvelles, ouais. Imagine les mauvaises. Mais il est énorme ce sommaire. Oui, il est énorme ce sommaire. On aime les gros sommaires ici. Bon, on va peut-être y aller, hein. Allez, parce qu'après, il y a le déjeuner familial, hein. C'est samedi, il y a la famille. Il y a la famille. Voilà. Comme quoi, hein, quoi, comme quoi, à Crocaiseur, comme ma quoi? C'est quoi ce recoiffage en direct? Ben, c'est parce que je vous respecte et je veux que vous ayez le meilleur. Le meilleur de moi, le meilleur de mon abondante chevelure, hein, qui s'éclaircit un peu là, mais c'est pas grave, on cache, on fait mine. Hein. Vous avez le droit au meilleur, vous avez le droit au best, à la meilleure version de moi-même. Je coiffe deux cheveux, c'est ça. Oh. C'est la brosse du chat. Prochaine étape, la Turquie. Bon, oh, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Salut, IQ7, merci pour ton message. Coucou, Jamiro. Ça va? J'ai vu ton message. Cette brosse-là pour le caca explosion? Non, c'est une autre. Hier, j'ai expliqué comment on nettoyait les traces de caca après des caca explosions de petits bébés sur les petits habits du bébé. Et moi, je suis un spécialiste de. J'ai inventé une méthode de ouf. Mais il y a un tuto. Le tuto, c'est hier soir, dans le replay d'hier soir. On a fait une petite soirée gaming hier soir. C'est dans le tuto. Magnifique touffe. Merci, Sugar. Bon, on va y aller. Méthode de ouf, genre les œufs au micro-ondes, non. Et comment tu fais quand le caca se catapulte? Je me baisse très vite, mais ça c'est les réflexes, c'est à cause des FPS. Qu'est-ce qu'on va mettre sur YouTube tout à l'heure? Ouais, en vrai, Macron, Dati, c'est pas mal. Sur YouTube. Je mettrais bien Chuck Norris et Dati, moi. Peut-être, tu vois. Parce qu'en fait, on met des petits extraits de la revue de presse sur YouTube aussi. C'est pour faire venir un autre public sur Twitch. Et je pense que Chuck et Dati, t'imagines un 1v1 Dati Chuck, je sais pas qui gagne en vrai. Ça peut être pas mal. Ouais. Parce qu'il y a une vraie question sur Macron et Dati là. Suspense. Ok. Salut mon Mathieu, tu vas bien? Ça cartonne la chaîne YouTube. Hein. Ah, les podcasts, ça cartonne. Hein. Et le Minitel, je vous dis pas les stats du Minitel. Hein. Tu vas nous parler de Mergo? Fais voir. RIP Isabelle Mergo. Avant-dernier sujet dans le sommaire qui est sous tes yeux. Oui, j'ai l'impression que oui. Tu te fous de ma gueule, non? Ça sait pas lire? C'est dingue ça. Mais il y a un problème d'habitude, c'est pas Chuck Norris qui meurt, c'est la mort qui Chuck Norris. Ouais, je sais. Ah merde, j'avais pas vu. Ouais, tu te fous de ma gueule, ouais. Ça sert à quoi que je me décarcasse à écrire un sommaire? Hein? Eh, tu vas parler du municipal? Hein? Tu vas parler du Moyen-Orient? Hein? T'es de ma gueule ou quoi? Merci Mathieu. Salut Kinoten. Bonne journée à toi. Merci Scad Ska Parmal. Je crois que je me suis bien appliqué. Merci pour le 53e mois d'abonnement. Merci à Décadragme pour le 31e mois. Merci Nani Zeno pour le 44e mois. Vous êtes incroyable. C'est pas Chuck Norris qui perd la vie, c'est la vie qui perd Chuck Norris. Oh, c'est beau, c'est beau. Tu vas parler du fait que Macron est intervenu pour favoriser Dati à Paris? Non, non. Celle-là était bonne. Samuel, tu fais les actus aujourd'hui? Non, non. Tu vas parler du sommaire? Non, non. Tu as vu passer l'info de l'officier Runner qui a donné la position de Charles de Gaulle? Attends. Tu es en train de me dire qu'il y a un gars qui a couru sur le pont du porte-avions Charles de Gaulle? Et qui a indiqué sur Strava sa pose, c'est ça? Sérieux? Non. Oh non, c'est pas possible. Oh le couillon. C'est pas possible. Mais c'est vrai. Il y a un article dans Le Monde, il y a un article dans le Huffington Post, il y a un article dans Sud-Ouest. Un tour de piste et on recommence. Waouh. Ah oui. Ah oui, on voit les allers-retours sur le pont. Regarde! Les mecs courent en pleine mer. Ah, mais non, vous voyez pas, attendez, attendez. Voilà, regardez. Regardez. Regarde, regarde, on a la map là. On le rajoute, hein, on le rajoute, hein. On le rajoute, hein. Là, c'est son footing, là. Après, c'est oui, comme le disent certains dans le chat, et l'article lui-même, c'est pas vraiment un secret la présence du Charles de Gaulle dans vu la taille du bateau, si tu veux, et puis ça a été annoncé. Hein. Sauf que voilà, ça donne la position exacte et quasiment en temps réel, quoi. Et sur Internet, ouais, partout. Ouais. Ouais, donc ça. Je pense pas qu'il va être félicité, ouais. Incroyable. Bon, on se le rajoute peut-être dans le sommaire ou pas du coup? Allez, on se le rajoute. Ok? J'ai l'impression que l'info vous plaît un petit peu. Hop, ajouter un sujet. Iran, deux points. Non, on va pas mettre Iran, on va mettre un officier. Un officier runner. Comment je dis leak? Comment je vais écrire ça? Leak? Comment j'écris ça? Leak. La pose. On peut mettre la position quand même. On va parler en français. Hein. On va parler en français. Leak la position du Charles de Gaulle. Voilà. Et la source, c'est le journal Le Monde. Regardez comme c'est beau. Hop. Ça nous en fait un gros sommaire. Hein. On aime les gros sommaires ici, mais là, ça devient vraiment très très gros. On voit plus. Bientôt, on voit plus ma tête là-haut. Hein. Et je vous le remonte. On va le mettre ici. Je vais jamais manger avec ma famille, moi, ce midi. Hein. Il y a trop d'infos. Hein. Ne rajoutez pas des infos comme ça. Hein. Ne rajoutez pas des infos comme ça. Il y a trop d'infos. Hein. Moi, j'ai une vie de famille aussi. Hein. J'ai vu un post Facebook en English qui relayait l'info, on est officiellement ridicule. Ouais, enfin, j'espère que c'est pas trop les English qui se moquent de nous, parce que vu que leur marine, elle est au garage, hein, ils ont zéro bateau à l'eau, alors que ils ont une des plus grandes marines que l'histoire de l'humanité ait connue. Hein, parce comme ils investissent plus du tout, alors j'espère que c'est pas les Anglais qui se moquent de nous pour le coup, parce qu'ils aimeraient bien avoir un tiers de notre marine à la flotte. Comme le dit Collapsure, nous aussi on connaît la position de leur bateau au port. Calmez-vous les Anglais, hein, calmez-vous les Anglais. Hein. Allez, bon, on va démarrer parce qu'on a beaucoup d'actu, ok? On y va? Vous êtes prêts? Comme le dit le Kir, avant de se moquer, il faudrait déjà avoir un porte-avions. Ok les Anglais? Ok les Anglais? Ça va? On va se calmer? Vous moquez la France? Hein? Nom de Dieu. Tu peux rajouter la mort de Nicolas Bretton qui joue Alex dans Buffy contre les vampires? Non. T'as vu la taille de mon sommaire ou quoi? Il fait 10 km. Hein? Moi j'ai une vie de famille, hein? Il est 10 h. Hein? Je suis censé manger avec mes enfants ce midi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entrées. On va se calmer. Hein. Donc Buffy contre les vampires, là, ce serait une autre fois. Hein. Il n'y a qu'à mourir un autre jour. Salut Capitaine Oui-Oui. Est-ce que j'ai votre feu vert pour commencer cette revue de presse? Parce que vous êtes très dissipé. Vous êtes dissipé, mais vous êtes dissipé. Oui, monsieur l'expert, merci. Ok, et on va dire bonjour à tout le monde, puisque c'est là qu'officiellement débute la revue de presse pour nos amis qui nous écoutent notamment en podcast. Ok, c'est parti pour le sommaire. 3, 4. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. Et oui, on est samedi, et vous allez me dire, mais il est fou ce gars, hein? Tous les jours de l'info, tous les jours ça bosse, tous les jours ça lit les journaux, tous les jours il y a la revue de presse. Oui. Et oui, on est comme ça. Et ça fait 5 ans que ça dure. Bienvenue dans la matinée Étienne, bienvenue à ceux qui nous écoutent en live sur Twitch le matin, bien sûr, bienvenue à ceux qui nous écoutent en replay sur YouTube, bienvenue à ceux qui nous écoutent en replay, en podcast audio, tous les jours. Vincent prend la revue de presse du matin et la poste à partir de 15-16 h en podcast audio sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Vous pouvez m'écouter du coup dans la baignoire, en prenant des bains avec des petites bougies, une petite coupette là, hein, des petites pétales de rose qui vont bien, en courant, par exemple sur le pont du porte-avions Charles de Gaulle. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, si, je sais très bien, je vous expliquerai tout à l'heure. En faisant de la cuisine, en faisant du bricolage, comme Bob, le bricoleur. Voilà. En prenant un café avec Chuck Norris. Non, c'est pas possible, il est mort, on va en parler aussi. Donc merci d'être là. Et on va commencer par le sommaire. Pour ceux qui n'ont pas 2-3 heures à me consacrer, vous avez l'essentiel de l'actu. Comment ça en faisant l'amour aussi? Quoi, Draco? Tu écoutes la revue de presse en faisant... Quoi? Ah ouais? Waouh! J'ai des images d'un coup là? Ok. Chassons les images. Ok. On y va. De quoi on va parler aujourd'hui? Hop, plein de choses. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est parti. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actu ce samedi matin. Le premier sujet, il a l'air anecdotique et en fait, je le trouve assez passionnant. Il concerne le président Macron. Le président Macron a-t-il influé sur la campagne des municipales à Paris pour favoriser Rachida Dati? Œuvrant, influent pour que le candidat de centre droit Bournazel se retire au bénéfice de Dati, qui n'avait pas enregistré au premier tour un score foufou, voire influent en coulisses pour que Sarah Knafo, la candidate d'extrême droite Reconquête, se retire également pour qu'une partie des voix de Sarah Knafo puisse se reporter sur Dati et donc lui donner toutes ses chances au deuxième tour face à Emmanuel Grégoire, le candidat de gauche hors LFI. Alors, il y a eu des premières accusations par Bournazel, l'Élysée a démenti, Le Monde remet une grosse couche, le journal Le Monde a enquêté, et Le Monde nous dit, il y a des proches, notamment de l'Élysée, qui disent, bah, il y a eu des coups de fil, il y a eu des... L'Élysée dément à nouveau. Mais du coup, on lira l'article du Monde. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'à un moment, le président Macron, d'une manière ou d'une autre, a œuvré pour influer sur la candidature de la candidate d'extrême droite pour favoriser l'élection d'une candidate de droite à Paris? C'est ça la question. On la posera avec Le Monde. Alors, les municipales, bien sûr, on n'a que ça à la bouche en ce moment. En vrai, c'est assez passionnant ce feuilleton. Je vous ai mis plusieurs articles. Je vous ai mis dans le dossier Libération ce matin un édito. Vous voyez, suspense. Bah oui, il y a quand même pas mal de suspense dans plein de villes. Voilà. Dans le Figaro, je vous ai mis aussi les enjeux. Voilà. Les enjeux de ce second tour historique. On va se calmer, historique. Oui, enfin, c'est important, mais historique. Tout de suite, les grands mots. Mais c'est assez bien fait, tu vois, avec plein de questions. Est-ce que l'incertitude créera un sursaut de participation? Est-ce que les unions avec LFI à gauche seront payantes? Qui va gagner à Paris, à Lyon et à Marseille? Est-ce que la droite va engranger des victoires? Est-ce que le RN et ses alliés vont consolider leur ancrage? Est-ce que les maires écolos vont se sauver? Est-ce que les figures du bloc central vont survivre? Quel impact en vue de la présidentielle 2027? Quelles seront les conséquences au Sénat? C'est pas mal fait, le Figaro, qui balaye un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser sur ces municipales. C'est bien fait. Je vous ai aussi mis les principales batailles locales, toujours dans le Figaro, avec un focus, un coup de projecteur sur Paris, sur Marseille, sur Nice, sur Toulouse, sur Lyon, sur Nantes. Et là, vous allez me dire, mais il nous régale, Samuel. Eh oui, je vous régale. C'est pas tout. Regardez, le Figaro nous donne une petite carte aussi de France, avec toutes les villes où il y a des choses intéressantes. Et c'est parti. Bordeaux, Limoges, Saint-Ouen-sur-Seine, Rennes, Nantes, Poitiers, Pau, Orléans, Toulouse, ça va Toulouse? Désolé, excusez-moi, je suis un peu, c'est le café. Lille, Roubaix, Strasbourg, Besançon, comment ça va les bisontins ce matin? Pardon, désolé. Jean-Michel, ça va. Toulon, Avignon, Saint-Étienne, Lyon, bah bref. Donc voilà, je trouve qu'on sera assez complet ce matin. Je ne sais pas à quelle heure on va se terminer cette revue de presse. Voilà pour les municipales, donc grosse page municipale ce matin. Et puis en feuilletant les journaux, je tombe sur cet article aussi, à propos de la guerre au Moyen-Orient. En Iran, l'opération terrestre américaine semble inéluctable. Quoi ? Trump va envoyer les GIs sur le sol iranien ? Je fais « What ?» Et c'est page 5, ça, c'est pas en première page. C'est. Alors effectivement, il y a des trucs, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé. L'arrivée d'une force amphibie dans le golfe Persique accrédite l'idée d'une intervention au sol des États-Unis en Iran, mais pas une... Pas une offensive massive, quoi. Enfin, c'est plutôt des opérations ponctuelles. Mais des doutes persistent sur le choix de la cible et de son nudité. Mais malgré tout, je trouvais ça assez intéressant d'en parler. On comprend rien ce que dit Trump. Lui non plus, t'inquiète Camille, c'est normal. Voilà. Donc on se penchera là-dessus. Et puis on va rendre hommage à nos disparus. Alors pas tous, hein, je ne vais pas parler de tous les gens qui sont morts depuis 2-3 jours. Mais on, comme les... sont des personnalités que certains ont beaucoup aimées. On va rendre hommage, grâce aux Parisiens, à Isabelle Mergault, qui était une comédienne, qui était une humoriste, qui était une réalisatrice aussi. On lui doit notamment un film incroyable, Je vous trouve très beau, pour lequel elle avait eu un César. Voilà, il y a un très beau, très bel article en forme d'hommage dans le Parisien. On l'a trouvée très belle, nous dit le Parisien. Et puis comment ne pas rendre hommage à Chuck Norris. Voilà. Chuck Norris, et qui était devenu un mème sur Internet, l'acteur. Celui qui mettait des coups de pied circulaires dans la gueule de la planète. Hein, et il est parti. On pensait qu'il était indestructible, immortel, hein, que même la mort avait peur de Chuck Norris. Eh bien, il est parti, Chuck Norris, qui a 86 ans. Hier soir, en scrollant, on est tombé sur l'article de Libération qui était déjà en ligne. On va le relire ce matin parce que c'est une masterclass. Cet hommage à Chuck Norris. Hommage, hommage avec un peu moqueur quand même. Donc on lira ça, et puis c'est tout. Ah, et puis il y a un truc dans le sommaire, regardez, dont je ne vous ai pas parlé parce que ce n'est pas sur ma tablette, et ça c'est la communauté qui me l'a rajouté, la communauté qui m'a appris tout à l'heure qu'un officier runner, c'est-à-dire un militaire qui courait sur le pont du Charles de Gaulle, avait laissé son appli Strava allumé et a du coup permis de localiser exactement, précisément, la position du vaisseau amiral de la flotte française, mobilisé, vous savez, dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. Ça s'appelle une boulette. Voilà, et donc je vous ai rajouté ça, il ne faudra pas que j'oublie, après l'article sur l'Iran. Et oui, ça cite du Chuck Norris dans le chat, je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule, mais oui. Et les aphorismes, on les connaît, Chuck Norris ne meurt pas, il en a eu marre de vivre. Chuck Norris n'est pas mort, il est parti casser la gueule à la mort. Voilà. Chuck Norris n'est pas mort, c'est la mort qui Chuck Norris. Eh oui. On disait que Chuck Norris avait déjà compté à l'infini deux fois. Ben, il va pouvoir continuer. Pas sûr qu'il ait eu les fixations du Pacha. Chris a raison. Le commandant d'un bâtiment militaire dans la Marine nationale, on l'appelle commandant, bien sûr. Et pas mon commandant d'ailleurs, dans la marine on met pas mon devant les grades, et on l'appelle sinon le Pacha, exactement. Gwen, très bonne question. Alors c'est pas une revue de presse des bonnes nouvelles ce matin, c'est une revue de presse normale parce que je trouve que, pardon, l'actu est trop, il y a trop d'actu en ce moment. Je trouve que dans une actualité où il y a des sujets aussi essentiels que le Moyen-Orient, l'Iran, les municipales, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre pays... Faire une revue de presse de bonnes nouvelles, c'est un peu compliqué. Donc, provisoirement, c'est en pause. Mais dès que l'actu va se calmer un petit peu, dès samedi prochain, on pourra faire une revue de presse des bonnes nouvelles. OK. Qu'est-ce que vous pensez de ce sommaire? Ce gros sommaire. On l'appelle le Pacha en s'adressant à lui? Non. On dit commandant. Mais c'est Pacha, c'est un peu son surnom, quoi. Entre soldats, quoi. Le Pacha est à bord. Il est où le Pacha? Voilà. Mais devant le Pacha, tu l'appelles pas le Pacha. Tu dis commandant. Le commandant qui peut par ailleurs être capitaine de vaisseau, capitaine d'escadre, amiral, contre-amiral, vice-amiral. C'est son grade et son appellation, c'est pas la même chose. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Est-ce que vous êtes prêt pour la revue de presse? Comment tu sais cela? Parce que j'ai fait mon service dans la marine nationale, où on salue comme ça et pas comme ça. Voilà. Vous êtes prêts? On y go? Il y a de la matière. Ok. Et je pense qu'on va mettre deux sujets sur YouTube, notamment le premier, Macron est-il intervenu pour favoriser Dati à Paris et Chuck Norris. Alors je me recale et on y va. Et on peut toucher ton pompon? Non. Pardon, je me racle la gorge une dernière fois. Let's go. C'est moi où le sommaire est de plus en plus gros. Non. C'est non, 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 tu as raison. Il est de plus en plus gros. Il y a de plus en plus d'actu. Ok, c'est parti. 3, 4. On va dire bonjour à nos amis de YouTube. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. On est dans la revue de presse, dans la matinée tienne du samedi matin. Et avec la commu sur Twitch, on s'est dit qu'il y a une actu qui pouvait sûrement vous intéresser aussi. On vous en parle. C'est Macron qui se mêle de la campagne à Paris. Article dans Le Monde que je vous mets ici. La question est simple. Le chef de l'État, le président de la République, macroniste, a priori, a-t-il influé? A-t-il parlé à des gens? A-t-il passé des coups de fil pour favoriser l'élection à Paris de la candidate de droite, Rachida Dati, contre le candidat de gauche, Emmanuel Grégoire? Et ce, en influant pour que M. Bournazel, centre droit, se retire et que Sarah Knafo, extrême droite, se retire. L'Élysée dément, Bournazel accuse, Le Monde aussi accuse dans ce journal. Let's go. Macron se mêle de la campagne à Paris. Accusé d'être intervenu pour obtenir le retrait de Sarah Knafo, le chef de l'État dément catégoriquement. Bon, bah c'est bon, il dément, donc on arrête. Bien sûr que non. L'article est assez intéressant. Rarement piste d'atterrissage n'aurait été autant dégagée. En théorie, Rachida Dati, candidate à Paris soutenue par les Républicains, LR, le MoDem, Renaissance et Horizon, a la configuration la plus favorable pour l'emporter le 22 mars, c'est demain, face au socialiste Emmanuel Grégoire. À gauche, l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo est concurrencé par le chef de file des Insoumis dans la capitale, Sophia Chikirou, qui s'est maintenue, tandis qu'à droite, Sarah Knafo, qualifiée pour le second tour, elle s'est désistée, et qu'au centre droit, Pierre-Yves Bournazel s'est retiré après avoir annoncé la fusion de sa liste avec celle de Rachida Dati. À 3 jours du second tour, Emmanuel Grégoire a-t-il craint que la victoire ne lui échappe, puisque après le premier tour, Emmanuel Grégoire, qui était très en avance, avec beaucoup de points d'avance, vis-à-vis de Dati, pouvait avoir le sentiment que c'était gagné. Et là, Emmanuel Grégoire commence à se dire actuellement que ça va être beaucoup plus compliqué. Jeudi, sur France Info, le candidat adresse un réquisitoire contre le président de la République et déclare, deux points ouvrez les guillemets, Emmanuel Macron est personnellement intervenu pour faire en sorte que l'extrême droite se retire au profit de Rachida Dati. Il est intervenu à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de Sarah Knafo, auprès d'intermédiaires, auprès de gens qui ont historiquement soutenu Reconquête. L'accusation est grave. L'accusation est grave. L'accusation, c'est de dire que le président Macron a pris contact quelque part avec des contacts liés à l'extrême droite pour que Sarah Knafo se retire au bénéfice de Dati. Et du coup, Emmanuel Grégoire parle d'une faute morale immense. Dénonçant le double discours entre les grands principes et les petites manœuvres. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il fait allusion au propos du chef de l'État mercredi en Conseil des ministres pour mettre en garde contre. Pourquoi Emmanuel Grégoire dit ça? Parce que Macron a dit cette semaine qu'il voulait mettre en garde contre les arrangements des partis, les petits arrangements, les petits coups de fil. Les arrangements des partis avec les extrêmes. C'est pas Grégoire qui parle, c'est Macron. Or, Quelque part, on peut se dire que passer des coups de fil, parler à des gens, comme le président du Sénat, Gérard Larcher, comme Édouard Philippe, le patron d'Horizon, comme peut-être Monsieur Bolloré, c'est ce qu'il y a dans l'article. Bah, quelque part, ça ressemble quand même à des arrangements, des partis avec les extrêmes. C'est ce que dit Emmanuel Grégoire. Le président Macron dit même que c'est dangereux pour la République. Continuons l'article, vous allez voir, c'est intéressant. Jeudi, depuis Bruxelles, où il participe au Conseil européen consacré au Proche-Orient et au Moyen-Orient, Emmanuel Macron réplique aux attaques de l'élu parisien. Pour que Macron réponde aux attaques d'Emmanuel Grégoire, c'est que le sujet est assez grave quand même. Sinon, il serait resté silencieux en disant j'ai plus à perdre qu'à gagner dans cette histoire. Des propos qui n'ont aucun sens, dit-il, qui déshonorent la personne qui les dit, comme ça à l'emporte-pièce, juge-t-il. Le président affirme ne pas connaître Sarah Knafou à titre personnel et ne pas intervenir dans ses municipales, j'ai autre chose à faire. Donc lui affirme qu'il n'est pas intervenu, affirme donc qu'il n'a parlé à personne et qu'il n'a passé aucun coup de fil. Le problème, nous dit Le Monde, dans sa dernière édition, c'est que plusieurs sources proches de l'Élysée et au sein de l'équipe de campagne d'Emmanuel Grégoire, qu'est-ce que ça veut dire plusieurs sources? Ça veut dire que des gens à l'Élysée et dans l'entourage d'Emmanuel Grégoire ont accepté de parler au monde, mais sous anonymat, en refusant de donner leur nom. Voilà. Plusieurs sources proches de l'Élysée et au sein de l'équipe de campagne d'Emmanuel Grégoire ont certifié auprès du Monde qu'Emmanuel Macron a bel et bien joué un rôle dans cet entre-deux-tours. Passant sa soirée du premier tour, concrètement, c'est-à-dire dimanche dernier, a appelé successivement Rachida Dati et Édouard Philippe à plusieurs reprises. Ces mêmes sources affirment qu'au lendemain du vote, donc lundi, il aurait fait passer un message à l'homme d'affaires Vincent Bolloré. OK? Avec lequel il entretient des relations pourtant exécrables. Et le message, c'est Sarah Knafou, la protégée du milliardaire conservateur breton, doit se retirer. Les 85 000 voix obtenues par la candidate d'extrême droite sont indispensables à la victoire de Dati. Voilà les infos du Monde. Contactés, les conseillers du président dénoncent ce mensonge totalement farfelu, démentent catégoriquement toute prise de contact entre Macron et Bolloré dans le cadre de la campagne pour Paris. Ce n'est pas Vincent Bolloré, ni Macron, ni le pape qui a dit à ma place pendant toute la campagne, jamais je ne ferai perdre la droite, conteste à son tour la candidate d'extrême droite Sarah Knafou. Même Sarah Knafou dit, c'est pas vrai. Okay. Continuons. Depuis jeudi, on a donc deux versions qui s'affrontent. L'industriel Bolloré avait-il besoin d'une incitation du chef de l'État pour obtenir de Sarah Knafou son retrait afin de favoriser l'union de la droite et de l'extrême droite qu'il prône depuis longtemps? Il n'est pas Bolloré du genre à se plier au désirata du chef de l'État. Et ne souhaite pas la victoire d'Emmanuel Grégoire, Emmanuel Grégoire, c'est intéressant, qui a défendu à l'automne 2025 d'ailleurs une proposition de loi visant à l'empêcher de rajouter le Parisien à son empire médiatique, lui qui détient déjà Canal+, CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche. Mais en même temps, faire d'Emmanuel Macron son obligé n'est pas pour déplaire à Vincent Bolloré, selon un des proches de l'homme d'affaires. Enfin, le patron du groupe Vivendi a l'oreille, c'est vrai, de la vice-présidente de Reconquête, donc Madame Knafou, qu'il apprécie et avec laquelle il échange souvent. Il a du poids quand il dit quelque chose, tu l'écoutes, convient à un proche de l'eurodéputé. Donc, à la fois, on se pose la question, quel intérêt Bolloré aurait d'accepter, finalement, d'obéir à Macron? Et dans le même temps, le monde nous dit, ben, si, quand même, il y a des trucs. Alors, Sarah Knafou, c'est pas ça dont elle avait rêvé. La compagne d'Éric Zemmour, pardon, aurait préféré une fusion de sa liste avec Rachida Dati, qui lui aurait permis de siéger au Conseil de Paris et de préfigurer une union de la droite et de l'extrême droite. Mais Dati a dit non. Enfin, elle ne voulait pas d'une fusion. Mais sa qualification de justesse, elle était juste au-dessus des 10%, ne lui permet pas d'établir un rapport de force avec Dati. Et de toute façon, écrit Le Monde, Dati ne peut pas conclure un tel accord avec l'extrême droite qui lui aliénerait au second tour le soutien du camp présidentiel, notamment les voix venant de Bournazel. Sarah Knafou a donc annoncé mardi son désistement, voilà, pour nous donner toutes les chances de battre la gauche, explique-t-elle, pas pour la personne de Dati. Après le départ du gouvernement de Dati, puisque vous savez qu'elle était anciennement ministre de la Culture, l'Élysée a gardé un œil sur sa campagne. Voilà, le conseiller en communication du chef de l'État, Jonas Bayard, c'est le monsieur que vous voyez ici au premier plan, voilà, avec la jolie veste bleue, voilà. a par exemple été aperçu dans l'assistance du meeting de Dati le 12 mars, à titre militant, précise-t-il. Okay. Au soir du premier soir, c'est du premier tour, c'est Pierre-Yves Bournazel, donc le candidat, on va dire centre-droit, le candidat Renaissance et Horizon, qui tient entre ses mains l'avenir de Dati. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que Dati espérait, Bournazel passe les 11%, il fait un meilleur score que prévu, et du coup, il peut se maintenir. Donc, Dati ne peut pas être élu. Dati ne peut pas être élu, vu son retour au premier tour, si Bournazel ne se retire pas. Or, Bournazel peut se maintenir, et Dati et Bournazel, ils peuvent pas se blairer. Mais alors, ils peuvent pas s'encadrer. Hein. Ils s'agressent continuellement, régulièrement, ça fait des années que ça dure. Soutenu par Renaissance et Horizon, il arrive en troisième position. Donc, la candidate d'Emmanuel Macron et de la droite, Dati, elle réalise un score bien en deçà de ses espérances, 12 points derrière Emmanuel Grégoire. Lundi soir, enfin dimanche soir dernier, c'est foutu pour Dati. Emmanuel Grégoire a fait un très bon score. Dati a fait un mauvais score. Sarah Knafo est en capacité de se maintenir au deuxième tour. Et Bournazel également. C'est foutu. Dati ne peut espérer l'emporter que si Bournazel se retire, en espérant qu'une partie importante des électeurs de Bournazel au premier tour vote pour Dati au deuxième, hein, le centre droit pour la droite. Et elle ne peut espérer que si Sarah Knafo se retire, en espérant qu'une partie importante des électeurs de Sarah Knafo au premier tour de l'extrême droite vote pour Dati au deuxième tour. Le report des voix, ça ne marche pas à 100%. Voilà. Et là, eh ben en quelques heures, toutes les cartes sont rebattues. Donc, d'où l'importance de la question, est-ce que le président Macron a joué un rôle dans le retrait de Bournazel et dans le retrait de Knafo? L'opération sauvetage du soldat Dattier est alors lancée dans la soirée, donc dans la soirée de dimanche. Édouard Philippe, qui est le mentor de Pierre-Yves Bournazel, hein, qui est le président du parti Horizon, Édouard Philippe reçoit, affirme Le Monde, un appel d'Emmanuel Macron. Le premier depuis l'automne 2025, depuis que Philippe a appelé la démission du président Macron. C'était un peu tendu entre les deux depuis. C'est son premier coup de fil. Le président le félicite pour son score au Havre, puisque Édouard Philippe va sans doute être réélu maire du Havre. Mais l'échange n'est pas désintéressé. Il défend la fusion des listes Dati et Bournazel. Voilà. Emmanuel Macron ne s'arrête pas là. Dimanche et lundi, il joint les chefs de file de la droite, notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, pour s'enquérir de l'état de négociation. Hein. Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, se moque, on est les deux seuls à Paris à ne pas avoir été appelés par le président avec Pierre-Yves Bournazel. Si Emmanuel Macron s'en mêle, c'est que Rachida Dati s'est fait beaucoup d'ennemis dans le camp présidentiel comme dans sa famille politique pour œuvrer à la fusion avec la liste Bournazel. Le chef des partis de droite et du centre et du bloc central, pardon, Bruno Retailleau, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Hervé Marseille, le président du Sénat Gérard Larcher, le maire de Meaux Jean-François Copé, réélu au premier tour, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse se mobilisent pour garantir la bascule de Paris à droite. Ça fait du monde. Par contre, je ne comprends pas, lorsque toute la gauche s'allie, c'est un front républicain. Alors, un front républicain, c'est contre l'extrême droite. Là, Rachida Dati, jusqu'à preuve du contraire, Jacek n'est pas une élue d'extrême droite. Donc, ce n'est pas la même chose. Et quand tu dis, mais quand la droite s'allie, c'est un complot. Là, on ne parle pas de la droite. La droite, aujourd'hui, si on veut être rigoureux, c'est effectivement Retailleau, Philippe, Attal, Marseille. On parle du président Macron. La question, c'est est-ce que le président Macron, qui officiellement n'est pas un président LR, hein, qui est un président macroniste, il a voulu créer son propre mouvement. Est-ce qu'il a œuvré pour faire élire une candidate de droite à Paris contre un candidat de gauche hors LFI? C'est ça la question. Eh oui, ce n'est pas la même chose. Faut pas confondre, sinon après on ne comprend plus rien. Rarement un second tour des municipales n'aura suscité autant de tractations souterraines jusqu'au sommet de l'État, peut-être parce que pour la première fois, le président de la République ne soutient pas le candidat investi par son pari. C'est ça l'histoire. Le candidat qu'aurait dû soutenir Macron, c'est Bournazel. Le candidat Horizon Renaissance, le candidat normalement de la Macronie, c'est Bournazel. Jacek. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Or, lui, il a tout fait, et ça fait un moment qu'on le sait d'ailleurs, hein, qu'il roule pour Dati à Paris. Pour les raisons d'ailleurs que, comme Macron ne veut pas le reconnaître officiellement, On n'a pas l'explication. Pourquoi Macron roule-t-il pour Dati à Paris? Je ne le sais pas. Il n'y a que Macron qui le sait. Et comme il ne le reconnaît pas. Mais en tout cas, il ne soutient pas Bournazel. Après s'être, justement, parlant de Bournazel, après s'être présenté face à Hadati comme l'incarnation de la probité, de l'honnêteté et des valeurs, Pierre-Yves Bournazel souhaite se maintenir mais constate son propre isolement. La majorité de ses colistiers veulent rejoindre la liste d'Hadati. C'est aussi l'intérêt de son chef de parti, Édouard Philippe, qui ne souhaite pas porter la responsabilité d'un échec de la droite à Paris à un an de la présidentielle. Le sort de Bournazel est donc scellé et ouvre la voie à la discussion avec Dati, qui contacte Bournazel dimanche à 22h30 par SMS. Les infos sont assez précises quand même. Hein. Bournazel se dit prêt à négocier. Il a compris de toute façon que son score ne lui permet pas d'être élu, quoi. Voilà. Il y a la pression. Après, il peut se maintenir au deuxième tour, notamment pour avoir des sièges de conseillers municipaux pour les gens qui sont sur sa liste. Bon. A priori, il accepte de discuter, mais il pose des préalables. Rendez-vous est fixé lundi à la mairie du 7e. Bournazel vient accompagné de Franck Riester, qui est le négociateur de Renaissance, d'un autre élu parisien, Daniel Georges Courtois. Dans le bureau de Dati, on nous raconte tout. Il y a Jérôme Starker, son directeur de campagne, sa conseillère Emmanuelle d'Auvergne. Valérie Pécresse est présente aussi. Voilà. L'élu Horizon, donc Bournazel, renouvelle ses trois conditions. Pour faire la fusion avec la liste de Dati, il veut la promesse de reprendre certaines de ses mesures sur l'écologie, la lutte contre les violences en milieu périscolaire et gouverner Paris de manière apaisée. Et surtout, aucune compromission avec l'extrême droite. Et là, Dati lui répond: Moi, Cnafo, jamais, tu connais mes valeurs. À ce stade, l'élu parisienne est plus intéressée par le jeu de chaises musicales sur sa liste que par les principes. Énoncée par Pierre-Yves Bournazel, elle lui propose la place de numéro 2. Et là, c'est intéressant parce que dans le chat, il y a des remarques très intéressantes disant: Oui, mais alors, on a pas de preuves. Le journal Le Monde affirme, mais quelles sont les preuves de ce que Le Monde affirme ou de ce que Bournazel affirme? Alors, déjà, on pourrait se poser la même question sur le démenti de l'Élysée. Quelles sont les preuves qui montrent que l'Élysée n'est pas intervenu? Parce que je veux bien qu'on pose des questions en remettant en cause les affirmations de Bournazel, qui lui affirme que Macron est intervenu, qu'on remette en cause les accusations du Monde qui affirme que Macron est intervenu. Mais dans ce cas-là, il faut se poser les mêmes questions sur les affirmations de Macron. Qu'est-ce qui nous prouve que le président Macron dit la vérité? Vous allez me dire, les politiques souvent disent la vérité. Mais bon. Mais il y a un truc quand même qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Et c'est ça. Dati propose sur la liste commune à Bournazel le poste de numéro 2. Sauf que il va pas y aller. Pourtant, dans son entourage, certains font pression sur Bournazel, enfin lui disent: Mais tu devrais y aller, tu devrais y aller. Dati va bientôt être jugé, si ça se trouve, va perdre son poste de maire et tu deviens maire. Autour de lui, certains l'encouragent à y aller, à accepter cette place de numéro 2, misant sur une condamnation pour corruption lors du procès de Madame Dati, prévu en septembre prochain, dans l'affaire l'alliant à l'ancien PDG de Renault, Nissan, Carlos Ghosn. Voilà. Mais Bournazel dit: Non, on ne devient pas maire de Paris dans le dos des Parisiens. Et là, coup de théâtre, il va annoncer, personne n'est au courant, il va annoncer qu'il a accepté la fusion de sa liste avec celle de Madame Dati. Donc normalement, il va se retrouver sur la liste. Et coup de théâtre, Bournazel va dire: J'accepte la fusion, mais moi, je n'y vais pas. Bon, après, il y a plein de gens qui lui écrivent, plein de petits SMS de félicitations, plein d'hommes politiques qui disent: Waouh, t'en as quand même des grosses. Voilà. Philippe Grandjean, cofondateur d'En Marche, ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron, qui s'était engagé pour la troisième voie incarnée par Bournazel, regrette la tournure des événements. Je ne voterai pas Dati, dit-il, dont je ne partage ni le projet ni les valeurs et qui est devenue de facto la candidate choisie par l'extrême droite. Alors que son camp se dévie sur ce mystérieux soutien, Emmanuel Macron continue de défendre son ancienne ministre, Madame Dati. Bournazel Ce que nous indique cette histoire, c'est que Bournazel s'est retiré contre son gré. La preuve, c'est qu'il accepte la fusion des listes et que lui n'y va pas. Et donc, il y a eu pression. Lesquels? Est-ce que c'est uniquement ses amis du centre droit et de la droite, les Larcher, les Édouard Philippe? Est-ce que le président Macron est intervenu? Est-ce que le président Macron est intervenu aussi, comme Le Monde l'affirme, pour que Sarah Knafo se retire? On ne le saura peut-être jamais. Bournazel affirme qu'il y a eu pression, Le Monde affirme qu'il y a eu pression, des gens sous couvert d'anonymat à l'Élysée affirment que le président Macron a passé des coups de fil. Voilà. À suivre. Je vous lis et on enchaîne. Bonjour, est-ce qu'il y a du nouveau sur le potentiel par jour de Madame Dati lors d'une précédente commission parlementaire? Non, la commission parlementaire qui reprend ses travaux lundi n'est pas revenue encore sur le sujet, mais peut-être qu'ils vont le faire bientôt. Digne d'un film? Ouais, ça c'est amusant, oui. Stiplum nous s'interroge. Comment Macron peut-il soutenir Dati alors qu'avec les dossiers judiciaires qu'elle a, elle a l'air d'être une bombe à retardement? C'est un risque énorme, le choix paraît étrange. Alors, ce qui est certain, par contre, c'est que ça, personne ne le conteste, c'est que le président Macron a décidé de soutenir la candidature de Dati à la mairie de Paris. Alors, pourquoi? Ça, encore une fois, je ne le sais pas, puisque tout le paysage politique le sait, mais lui, officiellement, ne l'a jamais dit, quoi. Alors là, il faudrait poser la question au président Macron. Et si on lui posait la question, je pense qu'il répondrait que mais c'est faux, qu'à aucun moment il soutient Dati, quoi. Alors, une des explications que j'ai vues dans la presse, mais je ne vous l'ai pas mise ce matin, c'est que l'épouse du président Macron, Brigitte Macron, est très très proche de Madame Dati, et que ce faisant, bah, en fait, il le ferait parce que Brigitte Macron trouve que c'est une bonne idée. C'est une des explications que j'ai trouvées. Alors, ce qui va être intéressant, et on va en parler un peu plus tard dans la revue de presse, c'est dimanche soir, pas 20h, hein, parce que a priori la différence de voix sera très serrée. On s'attend à un score très serré entre Madame Dati et Monsieur Grégoire. Ça va se jouer, disent certains, à quelques milliers de voix, peut-être à quelques centaines de voix. Qui sera élu maire de Paris dimanche soir? Je pense qu'on le saura vers pas 20h, c'est impossible. À moins qu'on ait vraiment une grosse surprise et que l'un des deux candidats s'impose avec une vraie différence, pas avant 22h ou 23h, quoi. Au plus tôt, je pense. Voilà. Et on vivra ça en soirée municipale sur cette chaîne demain soir, bien sûr. Après cette histoire de Macron, on va passer au deuxième sujet sur les municipales. Voilà. Hop, est-ce que j'ai bien mis le sommaire? Oui, suspense, avec un petit article dans Libération, qui revient un petit peu sur les enjeux, qui est plutôt bien écrit, qui est signé Paul Quignot. Quels sont les enjeux de ce second tour des municipales, dernier arrêt électoral avant le grand rendez-vous présidentiel de 2027? Oui, c'est une élection locale, hein, très très locale, notamment dans les petites villes où il n'y a pas forcément d'étiquette politique sur les maires, hein, avec beaucoup de maires qui sont élus dès le premier tour. Hein, vous savez qu'il y a beaucoup de villes où il n'y a qu'une seule liste d'ailleurs. Mais au niveau des moyennes villes et des grandes villes où là, il y a des étiquettes politiques, il y a des partis qui sont mobilisés, il y a des ambitions nationales, là, en revanche, cette élection locale devient aussi une élection nationale, en tout cas avec des conséquences nationales. Quels sont les enjeux, s'interroge Libération ce samedi matin. Un, premier enjeu, participation. Le premier tour a été marqué par une abstention record. Or, si on enlève l'élection de 2020 qui avait été marquée par le Covid, hein, jamais aussi peu de Français s'étaient déplacés pour voter pour élire leur maire qu'au premier tour. C'est un thermomètre indiscutable. Notre démocratie n'en est plus au stade du coup de froid. Elle est grippée. Donc, est-ce qu'il y aura plus de gens à voter dimanche? Deux. Après la participation, le second enjeu sera le nombre de villes qui seront dirigées par l'extrême droite. en plus de celles qu'elle a conservées ou conquises dès le premier tour. Parce que, alors certes, le RN part de très loin, hein, c'est un parti qui est très peu implanté localement, comme LFI pour l'instant, mais le RN progresse. Le suspense qui règne à Toulon ne changera pas le constat. Le RN sera en forte progression. En plus des villes, le nombre de conseillers municipaux étiquetés RN, sans parler des sans-étiquette extrême droite compatibles, dira l'étendue de la toile locale sur laquelle s'appuiera le ou la candidate RN en 2027. À bas bruit, l'extrême droite sera le grand vainqueur de ce scrutin, estime Libération. La probable victoire de l'ex-LR, désormais UDR, Éric Ciotti à Nice, sixième ville de France, viendra le dire un peu plus bruyamment. On en reparlera un peu plus tard, mais je ne vois pas ce qui pourrait empêcher l'élection d'Éric Ciotti, élu extrême droite, élu UDR, à Nice, dimanche. Ça n'est pas une prise pour le RN, puisque Ciotti n'est pas RN, il est UDR, mais c'est une prise symbolique très forte pour l'extrême droite en France. Troisième enjeu, ces municipales acteront donc à un an de son départ de l'Élysée un cruel constat d'échec pour Emmanuel Macron. Sous son règne, l'extrême droite aura progressé, alors que lui, c'était justement, comment dire, mis en avant comme l'opposant, le rempart à l'extrême droite. Il n'est évidemment pas le seul responsable, mais il est aussi responsable, écrit Libération. Ni les orientations de sa politique, ni sa manière de faire de la politique n'auront été des remparts. Au contraire, son apolitisme stratégique aura créé un vide dans lequel l'extrême droite s'est engouffrée. Signe affolant des temps. Le soupçon qui pèse sur le chef de l'État d'être intervenu personnellement auprès de l'extrême droite, donc c'est Libération là qui parle de l'enquête du Monde, pour qu'elle se retire de la bataille parisienne, histoire de favoriser sa protégée Rachida Dati. L'Élysée dément. En fonction de l'issue du scrutin, l'accusation pourrait être dévastatrice pour Macron. Il n'est pas impossible que dans les... Imaginons que Dati soit élu. Imaginons que Dati soit élu, imaginons que dans l'entourage du président Macron... Des gens le regrettent, par exemple, il n'est pas impossible que certains sortent du bois et expliquent le rôle que le président Macron a joué dans l'élection de Madame Dati, cette fois non plus sous anonymat, mais en leur nom, quoi. Il n'est pas impossible qu'on ait des choses intéressantes à partir de lundi. Quatrième enjeu, comment prendre le fait qu'il n'y a pas grand-chose à signaler à droite, la droite traditionnelle? Eh bien, on doit le prendre mal, car c'est un miroir de la banalisation de l'extrême droite. L'échec de Madame Dati à Paris viendrait confirmer cet état de choses. Une victoire servirait de cache-sexe. La gauche, cinquième enjeu, elle est restée fidèle à son visage de ces dernières années, c'est-à-dire divisée, et donc cacophonique dans ses alliances de second tour, mais paradoxalement globalement forte. Il n'y a pas photo entre socialistes et écologistes d'un côté et insoumis de l'autre. Les résultats des municipales seront largement favorables au premier. Est-ce que ce sera suffisant pour délivrer les socialistes de leur obsession Mélenchon? Question de Libération. Il y a quoi l'absurde qui dit la gauche divisée depuis 1789, ce qui n'est pas faux. Je vous lis. Si c'est égalité, est-ce que c'est possible que les deux maires soient en duo? Écoute, je ne me suis pas posé la question, mais dans une ville comme Paris, le nombre d'électeurs, qu'il y a une égalité stricte de votants, ça me semble un peu compliqué. Donc voilà pour les enjeux tels que Libération, en tout cas, les identifie. Lisons le Figaro aussi. J'ai pas compris ce que dit Libé, c'est le PS qui va sortir renforcé selon eux. Oui, pour Libération. D'ailleurs, on peut pas dire ça tout à fait comme ça. Mais pour Libération, les socialistes, au travers de leur dynamique, là. Comment le dire? Sans dire de bêtises. Seraient réellement la première force à gauche. Malgré le fait que LFI progresse au niveau municipal. Voilà. Bon, après, cette analyse n'engage que Libération. Je vous disais qu'on avait passé au Figaro avec un premier sujet dans le Figaro sur les enjeux également, mais vu par le Figaro, c'est assez bien fait, vous allez voir. Hop, paf. Second tour sur le fil, bon, ça, des matchs, il y en a, et on va se pencher sur ces matchs. Mais regardez, le Figaro nous propose un truc que je trouve assez pédagogique, en deux pages, et avec plein de questions sur les enjeux. Je vous propose de lire ça, c'est plutôt intéressant. Puis c'est bien aussi de changer de journal pour pas avoir la même ligne éditoriale. Élection municipale, un second tour historique en 10 questions. Voilà. Risque de bascule, appel à barrage contre LFI et RN à un an de la présidentielle, issue de ce scrutin local à la portée nationale. Je pense que cette phrase résume bien d'ailleurs scrutin local à la portée nationale, s'annonce imprévisible. Lisons. Première question, est-ce que l'incertitude va créer un sursaut de participation? Bon, comme Libération, Figaro rappelle qu'au premier tour, l'abstention a atteint un record. Voilà. L'absence de bataille locale dans 68% des communes où il n'y avait qu'une seule liste, on s'en est parlé déjà ces derniers jours, a forcément joué. Tout comme la nouvelle interdiction de panacher, c'est-à-dire de rayer certains noms sur des listes dans les petites communes de moins de 1000 habitants. Avant, c'était autorisé. Désormais, avec l'obligation de la parité sur les listes, eh bien, c'est interdit pour empêcher certains, notamment, de rayer les noms de femmes. Et du coup, eh bien, dans les petites communes, par exemple, où il n'y a qu'une seule liste, déjà, tu n'as pas le choix, il n'y a qu'une seule liste. Et en plus, ne pas pouvoir, dans cette liste, éventuellement rayer des noms, ça a sans doute détourné pas mal d'électeurs des bureaux de vote. Mais un sursaut pourrait être enregistré au second tour face aux nombreuses incertitudes, puisqu'il y a de vrais enjeux. Quand il y a de l'enjeu, et Dieu sait s'il y en a dans beaucoup de villes, les électeurs se mobilisent, explique par exemple le patron de l'Institut de sondage Ipsos BEVA, Brice Teinturier. Donc, réponse, pour le coup, à 20h, on aura un premier chiffre de participation. Demain soir, ce sera intéressant. Question importante aussi, est-ce que les unions avec LFI à gauche seront payantes? Vous savez que certains socialistes ont accepté les fusions dites techniques de listes avec LFI, et certains, comme à Marseille, comme à Paris, socialistes, ont refusé. Est-ce que ceux qui ont accepté l'union vont voir leur stratégie payante, remerciée? C'est le fait majeur de cette campagne d'entre-deux-tours. Dans beaucoup de grandes villes, les listes de gauche ont pactisé pour l'emporter, envoyant au diable les divisions pourtant majeures qui agitent ce camp sur le plan national. Les socialistes pointaient il y a moins d'un mois la dérive de LFI avec les propos antisémites intolérables de Jean-Luc Mélenchon. Hein, ce sont les citations, c'est notamment ce que dit Olivier Faure. Mais la direction du PS a cautionné sans ciller les alliances locales à Toulouse, Nantes, Brest, Clermont-Ferrand, Limoges. Qu'est-ce que dit le Figaro? Bah, que Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a dit. Il n'y aura pas d'alliance nationale entre les socialistes et LFI, et en même temps n'a pas sanctionné les maires sortants ou les candidats socialistes qui ont accepté des alliances avec ce même parti LFI dans les villes que je viens de citer. Donc y a, le Figaro dit bah, quelque part là, les socialistes sont un peu flous sur leur position. Les sympathisants socialistes et écologistes suivront-ils les mouvements d'appareil? C'est-à-dire est-ce que est-ce que les électeurs vont suivre les consignes ou condamneront-ils au contraire ces alliances de la honte telles que les a dénoncées Bruno Retailleau? Selon un sondage Odoxa Blackbone pour le Figaro, 78% des sympathisants insoumis valident ces accords, mais seulement 53% des sympathisants socialistes, pardon, et 30% des Français. Et ça, bah, à cette question, est-ce que les unions avec LFI pour les socialistes et pour les écologistes aussi, ces unions sont payantes? Ça, on le saura demain soir après 20h. Qui gagnera à Paris, à Lyon et à Marseille? On va faire des focus dans un instant, mais ça peut être intéressant de lire ce petit encadré. À Paris, la triangulaire s'annonce très ouverte. Alors pas pour Sofia Chikirou hein, qui s'est maintenue au deuxième tour mais qui n'a aucune chance d'être élue, c'est bien sûr entre Grégoire et Dati. Dati veut croire que l'alternance reste possible après 25 ans de règne socialiste, malgré ses 12 points de retard au premier tour. Ce serait intéressant de voir que la candidate qui est arrivée, qui avait 12 points de retard au premier tour sur le candidat socialiste, soit quand même élue maire de Paris. La fusion avec Bournazel, Horizon Renaissance et le retrait de Knafo Reconquête installe effectivement l'ancienne ministre de la Culture en position de candidate de la droite et du centre, seule face à Emmanuel Grégoire PS, qui a refusé la fusion avec LFI, et donc Sophia Chikirou, qui a décidé de maintenir sa candidature. Ça, c'est Paris. Et on y revient dans un instant. Lyon. À Lyon, un duel à l'issue très incertaine oppose qui? Le maire écologiste sortant, Monsieur Doucet, Grégory, qui est arrivé en tête au premier tour, avant sa fusion avec la liste insoumise, à l'ancien patron de l'OL, l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, soutenu, lui, par LR et le Bloc central. Ça, c'est Lyon, mais on va y revenir dans le détail dans un instant. Et puis à Marseille, depuis le retrait de l'insoumis Sébastien Delogu, la voie semble a priori libre pour le maire sortant, l'ancien socialiste Benoît Payan, arrivé en tête dimanche et soumis à une triangulaire en présence de Franck Alizio et Rennes, qui a fait un très bon score au premier tour, et l'ex-LR Martine Vassal, entre Sébastien Delogu et les filles, qui se retire, malgré l'absence de fusion des listes, au profit de Payan, et le fait que la candidate de droite, Martine Vassal, elle, reste en liste au deuxième tour. Sur le papier, Franck Alizio et Rennes, a priori, ne peut pas être élu à Marseille. Voilà. Autre question dans le Figaro, est-ce que la droite va engranger des victoires? Je vous lis en même temps dans le chat. Hein. Les Républicains, donc les LR, observent la carte de France en espérant quelques conquêtes. Au-delà d'une victoire à Paris qu'ils pourraient brandir comme un puissant symbole avant la présidentielle de 2027, ils observent avec attention des villes comme Grenoble, comme Nantes, comme Tours, comme Bordeaux, comme Clermont-Ferrand, sans cacher leur crainte pour Lyon. Oui, Montpellier, on en a déjà beaucoup parlé, Drache, dans les revues de presse précédentes, notamment Rémi Gaillard, qui a fait autour de 8%. La droite a décroché quelques heureuses surprises, à Besançon, par exemple, ville de gauche depuis très longtemps et qui pourrait peut-être basculer à droite, et Aurillac, qui a basculé le premier tour, et qui peut se prévaloir d'atouts incontestables à Metz, à Orléans, à Troyes et à Limoges, même si les espoirs sont faibles à Nîmes et à Marseille. La bordélisation de la vie politique touche désormais la vie municipale, des grandes villes et même des villes moyennes, souffle un cadre LR, qui se réjouit néanmoins en numérant les gains au premier tour pour un parti érigé en première force politique locale, avec 8400 sièges de conseils municipaux revendiqués, soit 2024 de plus que les socialistes et les qualifiés prêts à relever le défi dans 414 communes. LR est un parti très affaibli au niveau national, mais au niveau local, au niveau des mairies, LR est le premier parti de France. C'est pour ça que cette élection municipale, elle est un petit peu à part. Et le RN aujourd'hui, en nombre de voix, peut se présenter comme le premier parti de France, hein, aux dernières élections, mais au niveau local, c'est pareil, il est beaucoup plus faible. Tiens, le RN, on en parle. Le RN et ses alliés vont-ils consolider leur ancrage ? Avec cette progression au niveau local. Au soir de second tour, Marine Le Pen et Bardella regarderont plus précisément les résultats dans deux régions, le Pas-de-Calais et la côte méditerranéenne. Dans le Nord, ils comptent engranger des victoires dans de nombreuses petites communes, continuant à tisser lentement leur toile. Mais c'est dans le Sud que le parti espère remporter ses plus beaux succès. Pour certains cadres, il n'y a plus de doute qu'Éric Ciotti, leur allié de l'UDR, peut l'emporter à Nice face à Estrosi, d'autant que la candidate écologiste s'est maintenue en triangulaire. Ce serait la preuve parfaite que l'électorat de droite est définitivement passé au RN, estime Marine Le Pen. Mais les yeux du RN sont aussi tournés vers Marseille, même si ça va être compliqué, Toulon, Menton, Nîmes. Alors que le front anti-RN s'affaiblit, les stratèges marinistes estiment déjà que le plafond de verre électoral qu'ils subissent depuis la présidentielle de 2022 n'existe plus. Un des enseignements qu'on peut tirer de ce premier tour des municipales, c'est que ce que Marine Le Pen appelle le plafond de verre, ce que les opposants au RN appellent le front républicain contre l'extrême droite, s'affaiblit d'année en année, d'élection en élection. Et ce premier tour des municipales vient le confirmer. Autre question, est-ce que les maires écologistes vont se sauver, puisqu'en 2020, les écologistes avaient obtenu plein de villes, voilà. Est-ce qu'ils arrivent à les sauver, parce que depuis, ils ont diminué en popularité dans ces mêmes villes. À l'époque, l'impératif écologique dominait les débats. 6 ans plus tard, c'est assurément moins le cas. Certains observateurs parlent même d'un retour de bâton pour l'écologie politique. Les maires sortants ne sont plus portés par une vague verte électorale. Mais le premier tour des municipales n'a pas viré à la catastrophe annoncée par les sondages pour les maires écologistes. À Lyon, par exemple, M. Doucet s'est placé légèrement devant Aulas. Après une alliance avec LFI, il est donné favori du second tour. Contre Aulas. Tout comme le maire écologiste de Poitiers, Léonore Monconduit. Bordeaux et Strasbourg, ça va être plus tendu. La maire sortante, Jeanne Barseguian, arrivée au troisième au premier tour, s'est alliée à LFI. En perte de vitesse, le parti de gauche joue sa crédibilité dans les urnes. Attention, si la vague est verte, ne vous baignez pas. Exutoire, tu as raison. Les figures du bloc central survivront-elles? Bon ben, ça c'est la fin de la Macronie. Espèce d'étoile qui brille de moins en moins. Si Emmanuel Macron a échappé à un vote sanction, c'est tout simplement parce que son camp ne dirige aucune grande ville. Les macronistes pouvaient difficilement reculer beaucoup au niveau local et municipal puisqu'ils avaient très peu de place. Voilà. Tirant les leçons de son échec cuisant au municipal de 2020, le parti Renaissance a cette fois opté pour une stratégie d'alliance en se tournant majoritairement vers la droite et le centre traditionnel afin de gagner des conseillers municipaux qui vont élire après les sénateurs, je vous le rappelle. Confronté à un retour du clivage gauche-droite à l'échelle locale, le mouvement dirigé par Gabriel Attal nourrit toutefois deux espoirs de conquête à Bordeaux et à Annecy, avec les anciens ministres Thomas Cazenave et Antoine Armand. Édouard Philippe est bien placé pour être réélu au Havre, mais Estrosi, vice-président du parti Horizon, lui est en difficulté à Nice. Et puis, dernière question. Il y en a deux autres, mais je vais lire celle-ci. On ne peut pas tout lire non plus, hein. Sinon, on va se quitter à 17h. Quel impact en vue de la présidentielle de 2027? Alors, il y a un politologue qui s'appelle Martial Foucault qui rappelle que les municipales ne sont pas l'antichambre de la présidentielle. Hein. Et il donne un exemple. 2001, lorsque le PS fait basculer Paris et Lyon, un an plus tard, coup de tonnerre, 2002, Lionel Jospin ne se qualifie pas pour le deuxième tour de la présidentielle. Donc tu peux être très fort au niveau local, bah c'est l'exemple de la droite par exemple aujourd'hui, et très faible au niveau des élections nationales. Le miroir grossissant des grandes villes sur lesquelles se concentrent les commentaires ne doit pas masquer le rapport de force nationale. Aujourd'hui, au niveau local, le RN est encore très faible, alors qu'au niveau national, législatif et présidentiel, il est très fort. Ainsi, une large partie de l'électorat RN échappe aux statistiques des municipales, puisque dans la France rurale, zone de force du lepénisme, se présente très majoritairement des listes sans étiquette. Ce scrutin est tout de même l'occasion pour certains prétendants à l'Élysée de prendre date. Édouard Philippe, par exemple, favori au Havre, hein, il avait dit « si je perds la mairie du Havre, je ne me présente pas à la présidentielle ». Là, il va réellement, Édouard Philippe, pouvoir lancer sa campagne pour 2027. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est déjà félicité d'une magnifique percée de LFI. Quant à Marine Le Pen et Bardella, ils espèrent que des conquêtes emblématiques viendront servir la dynamique nationaliste dans les sondages. Le vrai coup pour le RN, ça aurait été de prendre Marseille, mais a priori, ça va être compliqué. Je vous lis, je me fais un café et on enchaîne. Donc le gars se présente pour être maire et potentiellement arrêté en 2027. Oui, enfin, ça c'est un grand classique, mais oui, pour répondre à ta question. Quelles sont les ambitions de Madame Dati, d'ailleurs, je pose la question. Madame Dati, si elle est élue maire de Paris, peut-être que. C'est une femme ambitieuse, ce qui n'est pas un défaut d'ailleurs en matière politique. Peut-être qu'elle peut se rêver candidate de la droite pour 2027 aussi, hein. Cette municipale à Paris, c'est son plus gros combat politique Dati depuis le début de sa carrière. Ah, et de base, le samedi et dimanche, vous n'êtes pas censé parler de politique, c'est une loi que vous contournez encore. Alors, une loi au singulier, pas de S, que vous contournez encore. Zedros, tu n'as pas lu la loi. La loi interdit le militantisme. C'est-à-dire de mettre en avant des chiffres, des sondages, des idées, des arguments pour faire pencher ton interlocuteur d'un côté ou de l'autre. Ce matin, je te mets au défi de trouver un propos militant dans cette revue de presse qui t'incite à voter pour un parti ou un autre. Voilà. N'hésite pas à travailler et reviens après. Ah, c'est toi qui, depuis tout à l'heure, écris plein de messages dans. T'es un petit nouveau. Alors, j'ai un petit best-of. 10h47, LFI est dangereux. 10h49, Mélenchon a des casseroles au cul. Ça va bientôt pop au grand jour. 10h50, on ne veut pas de communistes en France. J'attends la suite avec impatience. Bienvenue en tout cas dans la communauté et merci de participer au débat, c'est très intéressant. Ok. Et les filles n'est pas communiste. Oui, mais enfin, tout le monde. Écoute, la culture politique de notre ami est peut-être pas parfaite. Voilà. Déjà, s'il vote dimanche, c'est très bien. Je m'en fous de vos idées. N'oubliez pas d'aller voter. Alors, maintenant, on va faire des focus sur des villes. Sur les grosses villes. Regardez. Hop. Ce que j'ai appelé municipal, les principales batailles locales. Tac. C'est dans le Figaro toujours qui fait un joli dossier municipal ce matin. Donc, focus Paris, focus Marseille, focus Nice, focus Toulouse, focus Lyon, focus Nantes. Mais après, attention, on va pas oublier les autres villes. Regardez. Et là, il y a une double carte, enfin une double page avec une magnifique carte de France dans le Figaro, avec plein d'autres villes, voilà, que vous avez ici. Et on va aussi voir ça, parce qu'on ne fait pas que des focus sur quatre villes ici, quoi. Est-ce que c'est une sponsor pour la Ford Focus? Non. Allez, petit café et on enchaîne. C'est long la machine, ça y est, c'est parti. Mais si je reviens. Je vous lis en même temps, pendant que le café coule. Je crains le pire, le sommaire n'est pas au bon endroit. Ah ouais, putain, c'est vrai. Ouais, bonnet, je vois frappe américaine sur un site nucléaire iranien. On rajoutera ça, bien sûr, dans la page Iran. On ira voir cette info de dernière minute que je vois pop dans le chat depuis tout à l'heure. Priorité à l'actu, comme il dit sur les chaînes info. Je vois cette info qui pop dans le chat depuis tout à l'heure. Quelques-uns qui me parlent de frappe là. On ira voir ça tout à l'heure, bien sûr. Putain, je remercie aucun sub. Merci Jules TPN pour ton soutien que je n'avais pas vu il y a 18 minutes. Merci Fan Ferrari, merci à tous les deux. Ma chaise sur 10, 12. C'est mon épouse et mon beau-papa qui me l'ont offert, elle est top. Bisous Ikusen, bonne journée. C'est quand le nouveau studio? Je l'ai jamais dit. Ok, je leak. Je sais pas pourquoi cette question vient maintenant. Il n'est pas impossible, effectivement, que j'inaugure un nouveau studio. C'est un projet, c'est pas encore fait. Cet été ou à la rentrée, en septembre. J'ai peut-être trouvé l'endroit, ouais. Eh oui. Va mettre les petits plats dans les grands. Voilà. Mais c'est pas encore fait. Mais voilà. Plus de. On met les moyens, quoi. On met les moyens. À Chypre? Non, pas à Chypre. Parce que au niveau stylisme, le stream en peignoir blanc bas de gamme, je trouve pas ça fou. Ok, on reprend. Allez, focus sur certaines villes. Bon, parfois on va aller vite puisqu'on a déjà. Et ça paye France Télévisions? Alors je travaille une semaine par an pour France Télévisions, donc tu vas te calmer, Marshall. Pour le coup, ce ne sont pas mes 7 jours de travail annuel pour France Télévisions qui me permettent de m'offrir ce nouveau studio. Par contre, Marshall, tu peux lâcher ton sub, parce que du coup, ça aiderait bien, s'il te plaît. Merci. Non mais, incroyable ça. Lâche ton sub, Marshall, te critiquer là, et dire n'importe quoi. Alors, des focus sur cette ville. Paris, bon bah Paris, vous avez à peu près les infos, hein. Je vois pas ce qu'on peut se dire. C'était une blague, mais un cas pas dans ce cas-là, bordel. À Paris, Dati veut mettre fin au quart de siècle de règne de la gauche. Bon. Ça, on s'est donné toutes les infos ce matin. Hein. Ça va être très serré, hein. En attendant de connaître le nom du successeur d'Anne Hidalgo, dimanche soir, c'est l'incertitude qui règne à Paris. Il avait mis deux capas? Bon, alors le problème, c'est mes yeux, quoi. Ça, c'est l'âge. N'hésitez pas à sub pour que je puisse me faire opérer des yeux. Merci beaucoup. Les deux principaux candidats sont au coude à coude et bien malin qui préjugera du vainqueur avant les résultats définitifs. Voilà. Donc, si quelqu'un a les résultats, là maintenant, ce matin, de la municipale à Paris dimanche soir, vous êtes bien malin, nous dit Le Figaro. Dans les dernières intentions de vote, disent que les candidats sont. C'est très très serré, quoi. Mais putain, comment tu t'en sors? Je suis un chat à MMG. J'atterris toujours sur mes pattes. Ouais. C'est très. Ça va se jouer, certains disent, ça va se jouer à quelques milliers, peut-être quelques centaines de voix. Merci Adria44 pour le sub. Merci Framboise. Merci à tous les deux. Grâce à vous, je vais pouvoir me faire opérer les yeux et voir les capas. L'entre-deux-tours a été déterminant pour l'ancienne ministre de la Culture, Madame Dati. Bon, bah ça, on l'a vu, hein, avec la fusion avec la liste de Monsieur Bournazel, le retrait de Madame Knafo. Ça, vous avez compris. Et Madame Dati, qui était partie très en retard au soir du premier tour, est parvenue à installer un nouveau rapport de force, notamment grâce au débat télévisé de mercredi soir, organisé par Le Figaro et BFM TV, nous dit Le Figaro ce matin, et surtout aux décisions prises par ses concurrents de la droite et du centre. La fusion a été l'un des game changers, estime David Alphand, colistier de Madame Dati. Il n'empêche, les datistes, je ne savais pas si on pouvait dire ça, datistes, les soutiens de Dati, les datistes, qu'on ne voulait pas avec zadistes, hein. C'est pas du tout la même chose. Hein, ça. Les datistes restent prudents, conscients de la friabilité de l'électorat qui s'est portée sur le candidat du parti d'Édouard Philippe dimanche dernier, c'est-à-dire M. Bournazel. Ça va être passionnant à suivre en vrai. Aucune idée de ce qui va se passer. Donc Le Figaro explique, hein, le résultat du vote est dans les mains des électeurs de Madame Knafo au premier tour. Pour qui vont-ils voter? Des électeurs de M. Bournazel au premier tour. Pour qui vont-ils voter? C'est là. Et j'ajoute en partie dans les mains des électeurs de Sophia Chikirou, qui se maintient au deuxième tour, mais dont peut-être certains électeurs vont accepter de voter pour M. Grégoire, candidat gauche hors LFI, pour empêcher Madame Dati d'être élue maire. Mais là, on est dans le secret des isoloirs, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Les soutiens de Madame Dati, donc les datistes, j'ai appris ça ce matin, parient aussi sur la force d'une volonté de changement dans la capitale pour l'emporter, parce que ça fait 25 ans que la gauche est au pouvoir, hein, c'est ça? Rachida Dati avait fait une campagne fortement axée sur le sursaut régalien et la remise en question d'une politique conduite durant un quart de siècle par la gauche dans la première ville de France, une politique fautive et usée, arrivée au bout d'un système clientéliste, estime le camp Dati. Voilà pour Paris. Les datistes contre les grégoriens. Ouais, c'est pas faux. Non, pas le secret de l'urinoir de l'isoloir. Est-ce que c'est possible que l'abstention augmente à Paris à cause des électeurs de Knafo et Bournazel qui veulent pas voter Dati? Ouais, c'est du domaine du possible, ouais. Mais du possible, hein, ça, moi je sais pas ce qui va se passer. Hein. Mais en vrai, c'est passionnant par contre. Marseille maintenant. Alors, Marseille, a priori, depuis que M. Delogu, LFI, s'est retiré, ça me semble très compliqué pour Franck Alizio, candidat RN, qui a fait pourtant un très bon score au premier tour, d'emporter la ville de Marseille. Mais je peux me tromper. C'est l'une des casquettes que je pourrais manger dimanche soir, quoi. Le Figaro écrit. Alors, j'en profite pour dire que, au niveau de ses pages politiques, Le Figaro, c'est vraiment un journal. C'est un très bon journal. Alors, ne confondez pas l'édito de première page du Figaro, encore une fois, avec les articles de la rédaction politique du Figaro. Le Figaro a une excellente rédaction politique et leurs articles sont écrits avec beaucoup de rigueur. Là, on a Nicolas Farmine, par exemple, et Mathilde Seille qui écrivent sur Marseille et qui nous disent c'est l'heure de l'affrontement final entre la gauche et le RN à Marseille. Les deux candidats, Benoît Payan et Franck Alizio, donc divers gauche et RN, ont fait un très bon score au premier tour. Bah, la grosse différence, c'est qu'il se dit que monsieur Alizio, RN, n'a pas forcément beaucoup de réserve de voix pour le deuxième tour, alors que à gauche, comme le LFI Delogu s'est retiré, bah, du coup, la dynamique est plutôt pour monsieur Payan. Sans compter que la candidate de droite se maintient, hein, c'est ça, non? C'est à Marseille, ça, non? Attendez, je vérifie, je ne vous dis pas une bêtise. Madame Vassal, oui, c'est ça. Et en plus, la candidate de droite, Martine Vassal, se maintient. C'est là où il aurait pu y avoir un réservoir de voix pour monsieur Alizio. C'est là où c'est pour lui, ça va être très compliqué. Mitsuo Eko dit, sauf si les électeurs de Vassal se reportent sur Alizio pour voter utile. Oui. Les électeurs de droite traditionnels voteraient RN pour faire barrage à la gauche? Oui, question. C'est un scénario. Je lis un peu le papier pour voir s'il y a des infos que nous n'avons pas évoquées. Et puis aussi, ce que je n'évoque pas, mais ce que je devrais évoquer à chaque scrutin municipal, c'est les abstentionnistes. Parce que dans les abstentionnistes du premier tour, il y a aussi des gens qui peuvent se réveiller et aller voter au deuxième tour parce qu'ils trouvent que l'enjeu est intéressant. Ha ha! Il y a ça aussi. Steve Louf estime que l'affrontement final, c'est pas Alizio contre Payan, c'est Dieu contre Chuck Norris. On en parlera tout à l'heure. Ok. Donc ça c'est Marseille. Nice, bon bah là, je crois qu'on peut aller très vite. Hein. À Nice face à Ciotti, Estrosi espère encore un miracle. À part un miracle, je ne vois pas trop ce qui peut sauver Monsieur Estrosi. Le maire sortant, face à Éric Ciotti, qui a fait un très bon score au premier tour. Et alors que l'écologiste Juliette Chesnel-Leroux se maintient au deuxième. Et du coup, Nice deviendrait la plus grosse ville française dirigée par l'extrême droite. Le Figaro écrit, Estrosi ne pouvait compter que sur la mise en place d'un front républicain avec le retrait de la candidate écologiste, c'est ce que je vous disais, Juliette Chesnel-Leroux, mais elle a maintenu sa candidature. Un mois d'un miracle, c'est fini, en convenait-on sur le bout des lèvres dans le camp estrosiste. Pourquoi, madame? Chesnel Leroux ne s'est pas retiré au nom d'un front républicain pour empêcher l'extrême droite d'arriver à la mairie de Nice. Et elle a déclaré pour justifier son maintien dans la course, l'élu des Verts a reproché à M. Estrosi justement d'être celui qui a tracé le sillon de l'extrême droite. Et qu'ainsi, il ne pouvait en rien représenter un barrage contre cette même extrême droite. En gros, la gauche lui dit, dis donc, Estrosi, t'es gonflé de te présenter comme un rempart contre l'extrême droite, quoi. À suivre. Je vois mal comment Estrosi peut être élu demain soir, mais on verra. Coup de projecteur sur Toulouse maintenant. Moudenc veut empêcher Mélenchon de conquérir un trophée. Si Toulouse passe côté LFI, c'est un vrai succès pour LFI. De l'aveu même des socialistes, tout s'est pas exactement passé comme prévu à Toulouse. Quelques jours avant le premier tour, les proches d'Olivier Faure rêvaient encore d'en faire la cerise sur le gâteau des municipales, celles censées démontrer leur force de reconquête, montrer notamment qu'ils sont beaucoup plus puissants que LFI. Voilà. Tout le PS local était perçu d'arriver en tête de la gauche, mais voilà que la ville rose menace de virer rouge écarlate puisque le député insoumis François Piquemal a distancé dimanche dernier son rival socialiste François Briançon. Redistribuant les rôles pour tenter de renverser la droite de Jean-Luc Moudenc. Alors, les deux listes de gauche ne font désormais qu'une. Hein? Et du coup, l'objectif pour M. Moudenc, c'est de faire barrage à la gauche. Il y a des Toulousains et Toulousaines dans le chat? Oui? Et alors? Vous en pensez quoi? Ça va voter? Ça va voter demain? Je me dis pas forcément pour qui, mais... Allez voter les Toulousains, c'est important. J'habite juste à côté, je peux pas moi, me dit Médécoda. Les reports seront compliqués, me dit Anonyme 31. Ok. Ah, je vois que vous êtes très nombreux dans la région. Ok. Moudenc. Alors je retiens pour demain soir parce que c'est une façon aussi de préparer ma soirée spéciale de demain soir. Moudenc, enjeu à Toulouse, maire sortant, garder la mairie et alliance LFI socialiste pour faire passer la ville à gauche. Ok. Et toi Samuel, tu votes qui? Ah, moi je vote à Paris, mais comme il y a un isoloir dont le principe est et que chacun puisse garder son vote secret. Et que je ne suis pas ni un responsable politique, ni un élu politique, ni un militant politique, vous me permettrez de garder mon vote secret. Qui est peu ou prou le même vote depuis que je suis en âge de voter. Et qui surprendrait bien des gens ici. Et paf! Eh ouais! Mais je vous dirai pas, nanana! Lyon. Est-ce que la lecture du chat peut être sortie de son contexte pour te décrédibiliser, dit Lynn Coussant. Alors des gens malhonnêtes, y en a plein. La manière dont le chat peut être instrumentalisé contre les streamers, comment vous le dire poliment, je m'en bats les couilles. Voilà. De toute façon, vu le nombre d'habitants dans un pays comme la France, des gens malhonnêtes. Avec des arrière-pensées de merde, il y en a, hein, on va pas, il y en aura d'autres. Et si je devais considérer ça comme important, je dormirais plus quoi. Donc je m'en fous. C'est l'avantage d'être vieux, j'en ai vu d'autres. Alors Lyon, notamment. Avec Aulas, l'ancien président de l'OL. Alors, OL, donc, pardon, l'OL. Aulas qui a fait un score qu'il a considéré comme moyen au premier tour, alors que les sondages l'avaient annoncé très très haut à un moment. Voilà. On a dit que sa fin de campagne n'était pas folle. Voilà. Apparu dans le champ politique sur la promesse d'apaiser la ville. Après 6 années de mandat écologiste, donc la question à Lyon c'est est-ce que les écologistes gardent la ville ou est-ce que M. Aulas, donc candidat de droite et enfin qui réunit le centre droit et la droite, va être élu. L'ancien président de l'OL avait perdu le fil du droit d'inventaire. Filon pourtant emporteur qu'il a de nouveau creusé durant cet entre-deux-tours. Voilà. Donc lui, il mise sur la sécurité, le commerce. Il accuse donc la mairie précédente de ne pas avoir suffisamment travaillé sur ces sujets. Lyon, où nous explique le Figaro, il y a eu un accord entre deux listes de gauche, entre l'écologiste Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Chérifi, qui est la candidate LFI. Donc entre le score moins bon que prévu d'Olas, voilà, et Mitsuhiko me dit Olas n'a pas de réserve de voix, et l'alliance écologiste et LFI. Je me rends pas compte quelles sont les chances des uns et des autres. Les Lyonnais? Il semble revenir fort, dit Marillion. Olas, que beaucoup appellent par son nom en verlan. Oula, waouh, je l'avais pas. Ok, d'accord. Je l'avais pas, je l'avais pas. Waouh! 50-50, Marillion, dernier sondage. C'est très serré aussi. Ok. Donc, en gros, il fut un temps où Ola s'était annoncé très haut. Les résultats du premier tour ont été décevants pour lui, mais il semblerait qu'une dynamique se mette en place du côté de l'As. Ok. Ok. Donc, ça, c'est Lyon. Donc, ça va être très serré aussi. Et puis, Nantes. Alors, qu'est-ce qui se passe à Nantes? Ça, je me rappelle plus. Je crois qu'il y a une mairie écologiste aussi. La droite se prend à espérer une victoire surprise face à la numéro 2 du PS. Ah, c'est pas écologiste, Nantes? Fin de campagne fébrile à Nantes, secouée par l'écart historiquement serré au premier tour des municipales entre. Ah, c'est une socialiste, merde. Pour moi, c'était écologiste. Entre la liste de la maire socialiste sortante, Johanna Roland, bah autant pour moi, je suis désolé. Dans ma tête, c'était écologiste. Et celle du candidat Les Républicains, Foulque Chombard de l'eau. La gauche s'est mise sur le pied de guerre. Ok. Donc ça a l'air très serré à Nantes aussi, mais alors ça donnait quoi les. Il y a des alliances là? Sur le terrain, les militants de gauche doivent faire œuvre de pédagogie pour expliquer l'acrobatique volte-face de la maire qui jurait il y a quelques mois encore de ne pas vouloir d'alliance avec les insoumis. Donc il y a une alliance? Il y a un accord avec LFI? Pas d'accord programmatique, mais un accord technique, donc de liste. C'est-à-dire que les programmes ne fusionnent pas, mais d'accord. Et du coup, le candidat de droite, lui, il a réussi à être rallié par quelqu'un ou pas? Je crois pas, hein. J'essaie de voir. Ouais, soutien par le MEDEF, ouais. Ça, j'ai vu, ouais. Mais j'essaie de voir de quel soutien Monsieur Foulque Chombard de l'eau pourrait-il bénéficier au deuxième tour. Je crois qu'il n'y a pas, hein. Voilà. Perdante à Nantes depuis 89, la droite estime pourtant plus que jamais la victoire à portée de main. Le centre, non? Ouais. Darquigno, quel scandale, il n'y a pas mon anniversaire dans le journal, mais bon, mes parents m'ont appelé, alors ça va. C'est l'anniversaire de mon petit frère aujourd'hui aussi. Florent, que je vais appeler tout à l'heure. L'élu peut désormais compter sur une pétition du monde économique. Quelqu'un parlait de soutien du MEDEF. 1800 entrepreneurs sortant de leur habituelle réserve vont appeler à voter pour lui. Le MEDEF 44, Loire-Atlantique, s'est publiquement inquiété de l'alliance entre le PS et LFI. Je crois que ça va se jouer à quelques centaines de voix près. J'ai l'impression qu'il est un petit peu optimiste. Je vois pas trop la dynamique. Je vois pas trop les réserves de voix pour le candidat de droite là. À partir du moment où il y a alliance entre socialistes et LFI, je vois pas trop là. Il manque une info, non? Qu'est-ce que j'ai raté comme info là? Il est allié avec El Haïry que tu aimes bien. Ouais, je trouve que elle fait un travail incroyable au niveau de la. C'est quoi son poste de Sarah El Haïry déjà auprès des enfants là? C'est une dame que je trouve assez. Aujourd'hui, elle est. Là, elle est haute commissaire à l'enfance. Elle fait un très beau un travail assez incroyable. Et effectivement, elle est sur la liste à droite là. Le sommaire est à jour, Trenchlove. Après, on va sur la carte, tu vas voir. Le sommaire est exactement là où il doit être. Ça reste une triangulaire. Comment ça? À Nantes, le PS a des réserves de droits. Le P... Quoi? Ok, d'accord. Ok. Moi, il manque. Je suis désolé, mais je vais creuser Nantes parce que je trouve qu'il manque des infos là. On est sur Twitch, on a le temps. Ah non, j'ai rien dit, je croyais qu'il restait le temps. Ah, c'est pas une triangulaire, on est bien d'accord. Je comprenais pas du tout ce que tu me disais. Il y a deux listes. France Bleu, c'est peut-être ça. À Nantes, l'alliance entre socialistes et insoumis suffira-t-elle à sauver Johanna Roland? Ah, mais attends, c'est peut-être le mauvais score de Johanna Roland au premier tour? Bah non, elle fait quand même 35%, donc c'est pas ça. Je vois pas trop ce qui permet d'espérer là. J'essaie de comprendre la dynamique à droite là. Monsieur Foulque-Chombardelot, il a tendu la main, mais sans succès au candidat centriste, Mounir Belhamiti. Donc il n'y a pas cette dynamique de fusion. Cette alliance met évidemment le candidat de droite en difficulté, ouais, c'est bien ça, ouais. Alors il n'y a pas fusion. Mais de toute façon, Mounir Belhamiti, le candidat du centre, ne peut pas se présenter. Ok, ça y est, j'y suis. J'y suis. Parce que, en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi le candidat de droite à Nantes espérait quand même. C'est intéressant. D'abord, le candidat centriste, qui n'a malgré tout pas appelé à voter pour lui, ne peut pas se présenter. Il a fait 8%. Regardez, on a les scores ici. On avait fait 8% en premier tour. C'est pas des sondages, c'est les résultats du premier tour. Hein. Et donc, il y a une partie de ces électeurs qui peuvent se reporter peut-être sur sa candidature, peut-être. Et puis, il y a aussi le candidat d'extrême droite, Jean-Claude Hulot, 4,57%. Peut-être qu'une partie de ses électeurs peuvent aussi voter pour le candidat de droite. Ok, je comprends. Je comprends. Ok. Très bien, on peut enchaîner donc. Voilà. Et quelqu'un me disait tout à l'heure, mais Samuel, ton sommaire, il n'est pas à jour, si? La carte, la voici. Parce que là, on a fait vraiment les focus sur les plus grosses villes. Mais la France, ça n'est pas que les grosses villes. Et le Figaro nous fait aussi tout un focus sur les villes moyennes aussi. Avec les enjeux. Alors, on ne va peut-être pas tous les lire, mais je pense que c'est intéressant aussi. Et après, on partira sur l'Iran, le Moyen-Orient. Et notamment les infos que je vois dans le chat depuis tout à l'heure sur des frappes. Sur des cibles nucléaires en Iran dont vous me parlez, frappe a priori américaine. La carte des second tours, la voici. Alors qu'est-ce qu'on a par exemple? Bordeaux. Bordeaux, alors Bordeaux c'est intéressant. On a eu deux surprises. Monsieur Dessertine, candidat sans étiquette, économiste, mais plutôt centre-droit, a fait un score de fou au premier tour, 20%, mais il n'est pas au deuxième tour. Finalement, contre toute attente, il a décidé de se retirer. Et ça pourrait faire les affaires de Thomas Cazenave, l'ancien ministre macroniste, puisqu'une partie des voix de M. Dessertine pourrait bien sûr se porter sur lui. Et ça ne ferait pas les affaires du maire sortant écologiste, Pierre Urmic. Ok. Donc peut-être que Bordeaux peut passer côté Cazenave. Ok. Limoges. Alors ça, Limoges, j'ai aucune idée de ce qui se passe à Limoges, moi. Le berceau de la CGT figurait dans les espoirs de reconquête du PS, mais c'est finalement l'insoumis Damien Maudet qui a pris la tête de la gauche dimanche soir. Le socialiste Thierry Miguel s'est rangé derrière lui. Le candidat LR Guillaume Guérin tentera de conserver la ville dans le giron de la droite. Donc match LFI droite à Limoges. Ah, puis t'as un candidat RN qui se maintient aussi, 12%. Ok. Poitiers, aucune idée de ce qui se passe à Poitiers. La maire sortante écologiste Léonore Monconduit s'est alliée avec la liste insoumise plutôt qu'avec les socialistes. Décision dénoncée par le PS. Voilà. Et au deuxième tour, elle sera opposée à l'ancien macroniste classé au centre-gauche Anthony Brottier, la candidate d'hiver droite Lucille Parnaudot et un candidat RN. Mais attends, c'est une. Il y a cinq candidats? Charles Rangard. Charles, 1, 2, 3. Non, 4, puisque le candidat PS s'est retiré. Ok. 4 candidats. Ok. Pau. Ah, Pau, ben, c'est Bayrou. Ça va être compliqué, mais qui pourrait être réélu. François Bayrou qui est opposé au socialiste Jérôme Marbeau et à l'ancienne zémouriste ralliée au RN Margot Taillefer. Bretagne, Rennes, qui est aux mains de la gauche depuis très longtemps. La maire sortante socialiste Nathalie Appéré reste la grande favorite. Voilà. Il n'y a pas d'union avec LFI à Rennes, malgré le bon score de Marie Mesmer au premier tour. Quant au candidat du centre droit, Charles Compagnon, il rêve de créer la surprise dans cette ville à gauche depuis un demi-siècle. Mais après, quand je vois le score de Madame Appéré au premier tour, ça me semble un petit peu compliqué. Rennes, capitale des punks à chiens. Tu sais ce qu'ils disent les punks à chiens? Moi, j'étais punk à chien, moi. Nantes, bah Nantes, on en a parlé, ok. Orléans. On a un match entre un ancien républicain Serge Grouard et une liste d'union à gauche. Ok. Toulouse. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Avec François Piquemal, le député LFI, qui semble en posture favorable, écrit le Figaro, de s'emparer de Toulouse. Le Havre, bon, bah, il n'y a pas de suspense. A priori, Édouard Philippe, qui avait très peur de ne pas être réélu, avec des communistes qui reprenaient la main sur la ville, devrait être réélu. Saint-Ouen-sur-Seine, tiens, pourquoi il y a un focus sur Saint-Ouen-sur-Seine? Le socialiste sortant Karim Bouamran n'est pas passé près de s'imposer dès le premier tour. Mais il a une triangulaire avec très peu de suspense, nous dit le Figaro, avec une candidate insoumise, Manon Montmirail, et le centriste William Delannoy. Ok. Lille. Ah, on n'a pas parlé de Lille ce matin. Lille. Alors là, Lille, c'est full à gauche. Hein. Je crois que les trois listes arrivées en tête sont des listes de gauche. On a une quadrangulaire, quatre partis, entre le socialiste Arnaud Deslandes, dauphin désigné de Martine Aubry, qui est parvenu à décrocher le soutien décisif des Verts de Stéphane Bally, 17% des voix au premier tour. L'insoumise, du coup, Lawaria Hadouche pour en faire les frais, 23% quand même au premier tour. Si c'était elle qui avait réussi à s'allier aux écologistes, ça changeait tout. Hein. La députée macroniste Violette Spibou a décidé de se maintenir au second tour, tout comme l'eurodéputé RN Mathieu Vallet. Quatre candidatures, a priori, ça sent bien parti pour le socialiste Arnaud Deslandes. Roubaix. Bah Roubaix, a priori, c'est LFI. Hein. Le député insoumis David Guiraud a fait 46,64% au premier tour. Je pense que la ville, il n'y a pas trop de suspense, devrait tomber côté LFI à Roubaix. Strasbourg, suspense total, nous dit Le Figaro, arrivé en tête dimanche dernier. Ah oui, l'ancienne maire socialiste Catherine Trottmann, ouais. Le retour de Catherine Trottmann. Elle a perdu l'investiture du PS parce qu'elle a accepté d'être rejointe par le candidat Horizon, Pierre Jakubowicz. Lui-même désavoué par son pari. La maire sortante écologiste n'a fait que 19% au premier tour et du coup elle a choisi de s'allier avec les insoumis. Donc ça se joue. Waouh! Attendez, c'est incroyable Strasbourg. J'allais dire, ça se joue entre Trottmann, ancienne socialiste alliée à Horizon, et l'écologiste Barseguian allié avec les Insoumis. Non! Vous avez le LR Jean-Philippe Véter, ou Véter, qui a fait 24% au premier tour, qui se maintient, qui peut profiter de la division de la gauche. Il y a un monde où Trottmann et Barseguian se neutralisent, et dans une ville. Et donc, incroyable. Et dans une ville qui est sociologiquement, électoralement à gauche, la droite pourrait, on dit VT, VT, pourrait s'imposer. C'est incroyable. Oh, le suspense! Incroyable, Lille. Il y a des Lillois, là? On dit Vetter? Vetter? Merci. Oh, pourquoi je dis Lille? À Strasbourg, pardon. Excusez-moi, j'ai fourché. Je parle de Strasbourg. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est passionnant. Ok. Et après, attendez, c'est pas fini, hein. Grand Est, Strasbourg, bon, ça, on vient de le faire. Lyon, bah, Lyon, on en a parlé. Grenoble, le retour d'Alain Carignon, hein, qui a été condamné dans le passé. Voilà. Qui est devant la candidate écologiste Laurence Ruffin, qui est la sœur de. Comment il s'appelle? Ruffin. Laurence Ruffin, c'est la sœur de. Comment il s'appelle Ruffin? François, François Ruffin, ouais. Il y a une alliance écologiste LFI. Et donc en face, vous avez Carignon, soutenu par la droite. Montpellier, bah Montpellier, c'est Dash, hein, le maire. Le vrai maire, c'est Dash. Le bras droit de Zerator, mais bon, ils font mine de ne pas le savoir. Le socialiste Michaël Delafosse est plus que favori pour conserver le fauteuil qu'il occupe depuis 2020. La députée insoumise a peu de chances de déloger le maire anti-LFI. Elle s'appelle Nathalie Auziol, c'est ce que dit le Figaro, tout comme l'homme d'affaires Moed Altrad, étiqueté divers centres, et qui a fait 11% au premier tour. Okay. Donc a priori, Monsieur Delafosse réélu, nous dit le Figaro à Montpellier. Nîmes, triangulaire, très bon score du candidat RN au premier tour, Julien Sanchez, 30%. Le juste devant, mais de quelques voix, le communiste Vincent Bouget. Voilà, rabibochage, droite et bloc central. On a une quadrangulaire là? On a une quadrangulaire. Non, on a une triangulaire. Ok, le LR, ils ont fusionné avec les macronistes. Résultat du second tour à Nîmes, totalement imprévisible. Alors moi, demain soir, je vais revenir sur cette carte parce que je trouve qu'elle est très bien faite. Gaillard à Montpellier, il a fait 8 points. Ouais, il peut pas se maintenir au deuxième tour, ouais, l'humoriste. Besançon, alors Besançon, c'est une ville historiquement à gauche, mais qui pourrait passer à droite. Le candidat LR a fait 40% au premier tour. La sortante écologiste, la maire Anne Vigneault, n'a fait que 33%. Voilà. C'est l'une des premières à avoir accepté la main tendue des insoumis, donc alliance écologiste LFI à Besançon, mais la droite pourrait peut-être l'emporter. Annecy, le maire écologiste sortant ne se représente pas. Son premier adjoint tente de garder la mairie à gauche, mais écrit le Figaro, la voie semble libre pour l'ancien ministre de l'économie Antoine Armand. C'est quoi Antoine Armand? C'est un macroniste? Ok, triangulaire. C'est quelle couleur Antoine Armand? Antoine Armand, Antoine Armand, Antoine Armand, Antoine Armand, Antoine Armand. Est-ce que c'est horizon? Renaissance, Renaissance? D'accord, ok. Renaissance. Ok. Marseille, bon, Marseille, on en a parlé, hein, ça va être compliqué pour Alizio, le RN, malgré son très bon score au premier tour. Nice, idem, ça semble plié, Éric Ciotti devrait l'emporter, sauf remontada de fou de M. Estrosi. Toulon, alors on a une candidate du RN, Laure Lavalette, qui est en tête au premier tour, hein, 42% à Toulon, qui va affronter la maire sortante, José Massi, qui a reçu le soutien du candidat LR, et de l'ancien maire ex-LR, Hubert Falco. Donc en gros, c'est droite contre RN. Droite contre RN, à Toulon. Avignon, le journaliste Olivier Galzi. Moi, je me rappelle d'Olivier Galzi, il présentait sur France 2 le journal du soir, de la nuit. Ancien visage de l'information sur France 2 et iTélé. C'est fou ces journalistes qui font de la politique. Un journaliste qui se lance en politique? Donc, il a créé la surprise en arrivant en tête au premier tour à Avignon, 27% devant la candidate et conseillère régionale RN Anne-Sophie Rigaud. Mais rien n'est joué à Avignon où le socialiste David Fournier a fusionné avec l'insoumise Mathilde Louvain, enfin leur liste. Gauche, divers droite ou RN? Eh ben, c'est le même milieu de merde d'entre-soi, Bart Soldat. Bon, Philippe Ballard aussi, ouais, Philippe Ballard aussi. Il fallait mettre Ekappa à cette phrase. Oui, je suis une IA, bien sûr. Intéressant. Comme toi, mais tu vises la présidentielle. Ouais, ben moi je vise surtout le. Je voudrais être maître du monde, moi. Menton, bon, ben. Louis Sarkozy s'est planté, hein. 18% au premier tour. La députée RN de la circonscription est en tête, 36% au premier tour. Mais fusion entre Louis Sarkozy et Sandra Paire. Sandra Paire. Quelle couleur Sandra Paire? C'est pas très clair. Sandra Paire. Donc il y a un barrage contre le RN. C'est qui Sandra Paire? Bah, ils disent pas, bordel. Divers droite. Ok. Donc c'est Alliance droite contre RN. Ok. Et Corse, Bastia. J'ai loupé Saint-Étienne? Il y a un truc à Saint-Étienne? Ah si, Saint-Étienne, j'ai loupé Saint-Étienne, pardon. Excuse-moi. Quelqu'un m'a dit Samuel n'aime pas les Stéphanois. Quadrangulaire. L'ancien député socialiste en tête du premier tour, 29%. Le lepéniste Corentin Jousseron, 18%, presque 19%. Le LR, premier tour, 16%. Et l'insoumise, c'est quoi ce bordel à Saint-Étienne? Et c'est quoi ce bordel chez vous à Saint-Étienne, là? Vous avez un socialiste, enfin un ancien socialiste, un RN, un LR, une insoumise. Wow. Bah dis donc. Oui, il y a match ce soir à Saint-Étienne, merci. Enfin, demain soir surtout. Ok. Et donc Bastia, je disais, avant que je sois interrompu par les Verts, les Stéphanois, là. À Bastia, chef du nationalisme corse, le président du conseil exécutif de l'île autonomiste Gilles Simeoni est prêt à quitter ses fonctions pour retrouver la mairie qu'il a ravie en 2014. Il est arrivé en tête au premier tour, mais pas très loin, vous avez Julien Morganti, élu de centre-gauche allié à Jean-Martin Mondoloni, 11%, figure de la droite insulaire. Quoi, le centre-gauche et la droite qui font alliance? Putain, la Corse, c'est bizarre, quoi. Ok. Ah, donc c'est le centre-gauche, la droite qui font alliance contre les nationalistes. Et vous avez le RN aussi qui se maintient. Face à eux, le RN entend consolider sa percée. 16% derrière l'identitaire Nicolas Battini, un ancien indépendantiste qui a passé près de 6 ans en prison pour un attentat à la voiture Bélier contre la sous-préfecture de Corté en 2012. Okay, donc il a voulu rentrer avec une voiture bélier dans la sous-préfecture de Corté et maintenant il veut rentrer à la mairie. Mais par les urnes. Ok, c'est intéressant. On juge pas. Ça, je l'avais pas celle-là. Bon bah voilà pour la grosse page municipale. Eh, grosse page municipale, hein. Vous avez vu? Eh. Regarde la taille de mon sommaire. Bah non, je juge pas, je rappelle les faits. C'est pas jugé. Après, c'est moi, je crois à la rédemption. Hein. Donc c'est très bien. Mais je suis un peu surpris par l'info, quoi. Je l'avais pas, quoi. Pour le coup, je juge pas. Il a déjà été jugé. Hein. J'ai l'impression qu'il ne rétrécit jamais. Il rétrécit jamais. Ça descend, c'est tout. Une matinée étienne extra longue. Non, ça va, on est ensemble depuis 2h08. C'est une toute petite matinée étienne. Hein. Eh oh, faut prendre le temps, hein, les beaux gosses. Allez. T'arrives trop tard pour Nantes? Oui, Villers. Trop tard. Je vais lancer un merch avec un t-shirt Théma à la taille de mon sommaire. Tu me piques mes idées, quoi. Un jour, il sortira de l'écran. Un jour, on aura un sommaire comme ça. Ben au moins, on prendra plus de risques. J'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Voilà. Alors, je m'apprête à aller sur l'Iran, je m'apprête à aller sur le Moyen-Orient. Hop, regardez. Mais d'abord, on va rajouter une info. Parce que vous me dites dans le chat qu'il y a des frappes en Iran, peut-être venant des Américains contre les installations nucléaires. Ha. Et ça, je ne l'ai pas. Iran, allons voir ça. Priorité à l'info, comme on dit chez les autres. Je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. C'est quoi ces infos? Je n'ai nulle part votre histoire là. Ah, je l'ai, le monde. Ok, let's go. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va rajouter un titre. On va rajouter un titre, donc un site nucléaire iranien frappé. Ok. Je le rajoute parce que ça me semble assez important quand même. Allez, et ce sommaire, eh bien, on le grossit. On aime les gros sommaires. Vous le trouviez gros? Eh bien, il va être encore plus gros. Hop. Ici. Et du coup, désolé, Sugar, je crois que ça va tout casser, mais je remonte en arrière. Oh, je me fais engueuler. Précédent. Voilà. Kesako, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, priorité à l'info. Vous me disiez depuis tout à l'heure dans le chat, Sam, il se passe des trucs, là ça frappe un site nucléaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? En direct, guerre au Moyen-Orient, les États-Unis et Israël ont frappé le site nucléaire iranien de Natanz. Papapap, frappe rapportée par l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran. Celle-ci a ajouté qu'aucune fuite de matière radioactive n'avait été signalée. Attends, 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 c'est tout là? C'est tout là? Attends, il y a un petit article qui développe un petit peu quand même là. Ah, ok. Donc, c'était aujourd'hui. Les États-Unis et Israël ont mené samedi des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz, situé dans le centre du pays, selon un communiqué de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, donc c'est les autorités iraniennes qui le disent, à la suite d'attaques criminelles perpétrées par les États-Unis et le régime sioniste usurpateur contre notre pays, donc c'est bien un communiqué iranien. Le complexe d'enrichissement de Natanz a été ciblé ce matin. Complexe d'enrichissement nucléaire. Elle a ajouté qu'aucune fuite de matière radioactive n'a été signalée dans la zone. Bon, rappelons que l'un des enjeux pour les États-Unis et Israël, c'est d'empêcher Israël de se doter à la fois de la bombe atomique et de missiles balistiques en capacité de porter cette bombe atomique vers les ennemis de l'Iran. Et pour ça, il faut enrichir de l'uranium. Et là, a priori, il s'agirait d'un complexe d'enrichissement de l'uranium. Natanz est même le principal site d'enrichissement du pays, nous dit Le Monde. Il avait déjà été ciblé au début du conflit. Voilà. Et à l'époque déjà, les autorités iraniennes. Non, c'était l'AIEA, pardon. L'Agence internationale de l'énergie atomique avait indiqué qu'il n'y avait pas de conséquences de fuite radiologique. Cette nouvelle attaque intervient au lendemain de déclarations du président américain Trump évoquant la possibilité de réduire les opérations militaires au Moyen-Orient. Ah bon, le problème c'est que selon un jour il dit un truc, le lendemain il dit l'inverse. Donc c'est pas. Est-ce qu'il faut prendre ça pour argent comptant? Alors oui, ça c'est formidable ça. La phrase est géniale. C'est du comme c'est du Trump tout caché, tout craché. Cette nouvelle attaque intervient au lendemain des déclarations du président américain évoquant la possibilité de réduire les opérations militaires au Moyen-Orient. Alors même que Washington vient d'envoyer de nouveaux bâtiments militaires américains en zone, trois navires d'assaut amphibies supplémentaires et environ 2 500 marines dans la région. Ce qui va nous permettre de nous pencher sur la question d'après, c'est est-ce qu'une intervention terrestre américaine est imminente? Voyons, voyons. Et l'AIEA appelle à la retenue militaire après l'annonce par l'Iran de cette attaque contre le site nucléaire de Natanz. Alors après, c'est cohérent. Les États-Unis comme Israël ont toujours dit que l'un des objectifs de guerre, c'était d'empêcher définitivement que l'Iran puisse se doter de l'arme atomique. La Provence en parle également. Ok. Bon. Quelques infos, quoi. Et je vous le disais, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça va nous permettre de passer à cette question, puisque Trump vient de déclarer que A priori, l'intensité. Qu'est-ce qu'il dit Trump exactement? Attends. Je voudrais pas écorcher sa citation. Donc Trump, il dit précisément, il dit. Il a dit hier qu'il envisageait de réduire graduellement les opérations militaires contre l'Iran. Alors le problème, c'est qu'on a des infos qui nous disent l'inverse. Voilà. Enfin, qui permettent de se poser la question, on y va. Est-ce qu'une opération terrestre est inéluctable? Je peux vous dire que le matin, quand vous vous levez tôt pour lire les journaux, à 5 heures, que le cerveau est un peu embrumé, que le premier café n'a pas agi, et que vous voyez page 5 dans le Parisien, que l'opération terrestre américaine semble inéluctable en Iran, ça vous réveille. Vous dites, Trump va envoyer des soldats sur le sol iranien. C'est plus des frappes, c'est plus des missiles, c'est plus des bombardements, c'est soldat contre soldat. Et là, vous dites, oula, qu'est-ce qui se passe? Après, vous lisez la bagarre. Après, vous lisez l'article. Et vous vous rendez compte, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Lisons donc. Lucie me dit, pour info, Mediapart est de nouveau gratuit ce week-end. Gratuit ce week-end, ami de Mediapart, média de qualité. Mediapart, c'est un média que vous pouvez, dont vous pouvez lire les articles si vous êtes abonné, parce qu'il faut soutenir ce modèle économique sans pub. Mais de temps en temps, il y a des opérations sans abonnement. Et donc, on me signale que Mediapart est de nouveau accessible gratuitement ce week-end. N'hésitez pas à aller voir les articles. C'est du travail journalistique de qualité de nos amis de Mediapart. Alors lisons cet article. Les journalistes américains en ont l'habitude de suivre Trump ses exposés à des déclarations contradictoires d'un jour sur l'autre. Oh! Oui, c'est vrai. Après avoir dit plusieurs fois qu'il ne s'interdisait pas une opération terrestre en Iran, le président américain a assuré jeudi qu'il ne déployait pas de troupes. Alors attends, Trump a dit plusieurs fois qu'il n'enverrait pas de troupes en Iran. Ah non! C'est impossible à suivre ce qu'il dit lui. Non. Trump a déclaré plusieurs fois qu'il ne s'interdisait pas de le faire. Jeudi, il a dit qu'il ne déployait pas de troupes, mais il a ajouté, si je le faisais, je ne vous le dirais pas. Est-ce qu'il sait lui-même ce qu'il fait en fait? Je plaisante. 3 semaines après le début de l'opération Epic Fury, Trump semble pris au piège. Certes, les Américains ont décimé le corps des gardiens de la Révolution et fortement affaibli les capacités de production de missiles et de drones iraniens, mais l'Iran continue, vous le savez, d'attaquer les navires commerciaux qui se risquent à traverser le détroit d'Ormuz, on en parle depuis plusieurs jours, par lequel transite 20% du pétrole mondial et rien ne va plus au niveau de l'économie mondiale en ce moment, c'est un peu compliqué. Face à ce constat, un haut responsable de la Maison-Blanche a confirmé à Reuters que Trump étudie l'hypothèse d'un déploiement terrestre en Iran. Et là, waouh! Soldats américains sur le sol iranien. Potentiellement des soldats américains qui trouvent la mort. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. L'option d'une invasion à grande échelle n'est pas à l'ordre du jour. Donc ne vous attendez pas, a priori, enfin avec Trump on ne sait jamais, à un déferlement massif de soldats américains sur le sol iranien. L'Iran est un pays vaste, montagneux, très difficile à défendre, très compartimenté. Donc l'attaquer par la voie terrestre à partir des frontières serait suicidaire, prévient Pierre Razou, qui est un chercheur. Voilà. Mais en revanche, donc pas une opération terrestre massive, mais des actions terrestres ponctuelles envisageables. Par exemple, prise de contrôle de l'île de Karg, déploiement de troupes sur le littoral iranien pour sécuriser la navigation dans le détroit d'Ormuz, ou encore une opération de coup de poing pour récupérer le stock d'uranium enrichi. Il y a une semaine, le Pentagone a ordonné à son porte-hélicoptère amphibie USS Tripoli de quitter le Japon pour rejoindre le golfe Persique avec ses 3 navires d'escorte. À son bord, tiens donc, des soldats. Le 31e corps expéditaire des Marines et ses 2500 soldats spécialisés dans les assauts amphibies. Bientôt rejoint par l'USS Boxer et son 11e corps expéditionnaire de taille équivalente qui ont quitté San Diego en milieu de semaine. Trump nous a dit hier qu'il allait réduire les frappes. Enfin, les frappes, les opérations militaires, et on apprend que 2 navires américains font route vers la région avec des soldats à son bord. Alors que jusque-là, c'était. Les troupes américaines étaient très limitées hein, sur les navires, c'était. Il n'y avait pas de troupes massives à bord de ces bâtiments. Après avoir bombardé les installations militaires de l'île de Karg, Trump pourrait tenter d'en prendre le contrôle. Pourquoi cette île? Parce qu'elle représente 90% des exportations de pétrole iranienne. Et donc, en contrôlant cette île, on fragilise l'effort de guerre iranien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de relief pour s'abriter. Le temps serait trop court pour l'aménager avec de l'antimissile et de l'antidrone. Donc, à supposer que l'île soit prenable, y aurait des combats très violents qui pourraient très vite s'y dérouler, quoi. Notamment, par exemple, avec des frappes iraniennes sur l'île, mais contrôlée par les Américains. D'ailleurs, l'île de Kark se trouve à portée de tir des missiles iraniens, nous explique le Parisien. Les Marines deviendraient alors des cibles faciles, quelques mois avant des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et l'île pourrait se transformer en piège. En revanche, il y a d'autres îlots dans le Golfe qui pourraient constituer des cibles intéressantes, dit le même chercheur, Pierre Razou. Quant à un déploiement sur le littoral iranien pour sécuriser le détroit d'Ormuz, ce chercheur n'y croit pas. Ce serait exposer ses soldats à des contre-attaques permanentes et violentes des Iraniens qui n'attendent que cela. Reste encore l'idée d'opération éclair menée en profondeur en Iran. C'est un peu ce qu'ils avaient fait comme pour le Venezuela, là. Au début de l'offensive, Trump a répété que l'objectif des frappes était d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire en neutralisant les 200 kilos d'uranium enrichi à 60% stockés dans les sous-sols disparants. Les Américains pourraient aller chercher ces 200 kilos d'uranium. Voilà. Selon le New York Times, une opération commando avait été envisagée par Washington durant la guerre des 12 jours en juin dernier. Cette hypothèse d'opération hit and run, frapper et s'en aller, est d'autant plus crédible que les Américains et Israéliens ont la maîtrise totale du ciel. Les Américains peuvent être facilement déposés en hélicoptère, mener une attaque ponctuelle dans la mesure où le système de communication iranien est très désorganisé, à condition de savoir où se trouvent les stocks. Là, c'est une histoire de renseignement. Ouais, Cuba, où je suis, Gina. Il y a Gina qui me dit coucou en parlant d'île. Est-ce que tu penses, Samu, qu'il y a du matériel pour reparler de Cuba dans une prochaine revue de presse? C'est chaud là aussi, c'est prévu. Trump a eu des propos extrêmement troublants sur Cuba en disant qu'il allait s'occuper de Cuba. C'était sa première, sa prochaine cible. Et qu'il allait faire de Cuba ce qu'il voulait faire de Cuba. Alors, comme souvent, c'est pas très clair. Mais il se passe des trucs autour de Cuba, ouais. Et j'ai prévu de vous en parler dans les prochains jours. Bien sûr. Pour autant, l'armée américaine doit déjà défendre ses positions au Moyen-Orient, où 50 000 hommes sont déployés, ainsi que les monarchies du Golfe, dont les systèmes antimissiles sont déjà mis à mal par les drones iraniens. Il y avait un papier ce matin qui s'interrogeait sur les pays du Golfe qui, pour l'instant, se font frapper par l'Iran mais ne répliquent pas. Il y a un article qui disait ce matin, il y a un moment, les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, etc., qui eux aussi ont des moyens militaires, vont peut-être se dire doucement quoi. Face à un conflit qui pourrait durer plus longtemps qu'imaginé, le Pentagone a demandé à Washington d'approuver une demande de financement de plus de 200 milliards de dollars. Eh ben ouais. Et oui, ça coûte des sous. Qui sera soumise au Congrès, Trump lui a déjà repoussé une visite prévue fin mars à Pékin, report d'un mois. Ok, vachement intéressant. Trump nous a annoncé il y a quelques jours que cette guerre allait durer très peu de temps. C'est pas sûr, 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 sûr. Quid des alliés de l'Iran? Ben, on suit hein, ce qui se passe au Liban avec le Hezbollah, ce qui se passe avec les Houthis aussi, hein, qui pour l'instant ne frappent pas les forces américaines et israéliennes, mais qui pourraient se décider à le faire. Est-ce que ce sont des bases américaines qui se font frapper dans les pays du Golfe? Pas seulement. Ce sont aussi des sites de production, de stockage, de raffinage, d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz. Voilà. Et ce qui, à la fois, bah, provoque beaucoup de dégâts économiques pour les pays concernés, mais aussi pour l'économie mondiale, quoi. Ouais, mais vous avez raison, Cuba est un sujet qu'on va commencer à traiter ici parce que c'est important. D'ailleurs, je dis Devens qui est assez loquace d'habitude, on ne le voit plus ou il est plutôt contre? Ah bah, il est full contre la guerre, lui, Alastair. Donc, J. Devens, le vice-président, il est très embêté parce que lui, Il pense que il faudrait pas mener tous ces conflits. Donc là, pour l'instant, il ferme sa gueule. Voilà. Oh, il y a un truc qu'on a oublié. Ah oui. Et ça, encore une fois, c'est une info que vous m'avez donnée dans le chat. Sam, vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce que tu sais qu'il y a un gars, un soldat français, enfin un officier, sur le porte-avions à propulsion nucléaire français Charles de Gaulle, qui a fait son petit footing, parce que c'est l'un des défis sur les bâtiments de la marine, c'est de s'entretenir physiquement pour rester au top pendant parfois des missions qui durent des mois. Voilà. Donc par exemple sur le pont du Charles de Gaulle, ça court. Et oui, mais monsieur a couru avec sa montre ou son téléphone sur Strava, le petit logiciel là. Et du coup, il a leaké la position exacte du Charles de Gaulle. Alors que le Charles de Gaulle soit dans la zone, dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient, c'est pas une info. Le président Macron l'a annoncé, mais du coup, ça a donné sa position précise, quasiment instante, quoi. C'est pas fou. Article dans Le Monde. Ah. Hop. C'est pas le premier à faire ce genre de bêtises. Oh, je m'en doute, ouais. Et alors, vous allez voir, l'article est assez étonnant. Voilà. Et c'est Le Monde qui nous sort cette info. Stravalix, le porte-avions Charles de Gaulle, localisé en temps réel par Le Monde grâce à l'application de sport. Ah, c'est le journal Le Monde qui a réussi à aller voir le Strava du gars? Alors que le groupe aéronaval français se rapproche de l'Iran, Le Monde a identifié un militaire français utilisant l'application sportive au milieu de la Méditerranée. Une faille de sécurité qui a été corrigée, qui n'a pas été corrigée malgré nos précédentes révélations. Hein. Le Monde avait déjà révélé ce genre de choses. Est-ce que Le Monde reproche un petit peu à l'armée française, c'est de ne pas avoir corrigé cette faille de sécurité. Aïe, aïe, aïe. Un tour de piste et ça recommence. Le 13 mars à 10h35, donc c'était il y a... Ah, c'était il y a un petit moment déjà. C'était une semaine. Au milieu des vagues, Arthur, prénom modifié, jeune officier de la Marine nationale, fait son footing et tourne en rond sur le pont du navire sur lequel il travaille. Bon, l'avantage d'un porte-avions, c'est que c'est grand, tu peux courir. Pour enregistrer ses performances, un peu plus de 7 km parcourus en 35 minutes, c'est pas mal. 7 km, 35 minutes, c'est pas mal, cette bonne foulée, Arthur. Il utilise la montre connectée qu'il porte au poignet. Les informations ainsi recueillies se retrouvent sur Internet. Car Arthur a un profil sur l'application sportive Strava. Et son profil est public. Arthur. Arthur. N'importe qui peut le consulter. Le jeune homme vient donc de signaler quasiment en direct la position exacte en mer Méditerranée du porte-avions Charles de Gaulle et de son escorte au nord-ouest de Chypre à une centaine de kilomètres des côtes turques, comme a pu le constater Le Monde. Voilà, il est là. Et là, on voit le parcours du footing. Hein, parce qu'évidemment, il y a un zoom. Et donc, on le voit faire ses allers-retours sur le pont. Clac, 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 clac. La présence dans la région du groupe aéronaval français, composé au minimum de 3 frégates et d'un ravitailleur en plus du porte-avions, n'est pas un secret. Hein, ce n'est pas un secret. Puisque le 3 mars, Emmanuel Macron avait lui-même annoncé avoir ordonné son déploiement. Le seul porte-avions français se trouvait alors en mer Baltique, voilà, et son passage du détroit de Gibraltar était annoncé pour le 6 mars. Reste que, pour tous les experts en secret défense là, du chat que je vois depuis tout à l'heure là, reste que la transmission de la position exacte du groupe aéronaval, quasiment en temps réel et publiquement sur Internet, constitue une imprudence dangereuse dans un contexte de guerre au Proche-Orient. D'autant que ces dernières semaines, au moins 2 bases militaires françaises dans la région ont été touchées par des frappes du camp iranien. L'info, c'est pas que le Charles de Gaulle est en Méditerranée ou est dans la région. L'info, c'est qu'à un moment, tu sais exactement où il est. Parce que le porte-avions, c'est très grand, mais une mer, c'est grand aussi, hein. Rappelons qu'un soldat français a été tué et 6 autres blessés dans le nord de l'Irak à la suite d'une attaque de drone. À travers le compte de notre ami Arthur sur Strava, il est donc possible à tout un chacun de suivre les déplacements du Charles de Gaulle et des navires qui l'accompagnent. Bon, je pense que depuis, il a coupé sa montre. Le 14 février, une activité footing localisée en pleine mer situe le marin au large du Cotentin, à 40 km de Cherbourg. Le 26 et 27 février, Arthur est à terre, à Copenhague, Une brève escapade dans la capitale danoise alors que le porte-avions fait escale à Malmö en Suède. Et le 13 mars, donc, le jeune homme est au nord-ouest de Chypre. Information qu'il est possible de recouper quelques jours plus tard lorsque les images de cette zone de Méditerranée orientale prises par satellite sont disponibles. Sur cette image satellite photographiée un peu plus d'1 heure après le footing d'Arthur, on distingue la forme caractéristique du porte-avions français long de 262 mètres. Nous avons ajouté sur ce cliché l'itinéraire géolocalisé du footing d'Arthur, c'est ici. Il a la forme de boucle dans l'eau, probablement parce que le marin courait sur le bateau en mouvement. Cette course a lieu à environ 6 km de là où le navire est ensuite photographié. Deux raisons peuvent expliquer ce décalage. Soit Arthur courait à bord du porte-avions et ce dernier a continué à se déplacer, soit le jeune homme était alors à bord de l'un des vaisseaux qui escortent le porte-avions. Dans les deux cas, c'est le partage public des activités sportives d'Arthur qui a permis au monde de localiser le Charles de Gaulle. Voilà. Là, vous avez le Charles de Gaulle, là. Alors, que dit l'armée française? Merci Matarix. J'avais pas vu pour le soutien, pour le sub. Merci Adria 44. Merci à tous les deux. Contacté, l'état-major des armées affirme que la diffusion de ce parcours de course sur l'application Strava n'est pas conforme aux consignes en vigueur, auxquelles les marins sont régulièrement sensibilisés. L'hygiène numérique du combattant faisant partie des prérequis avant tout déploiement, l'état-major assure que les mesures adaptées sont prises par le commandement. Là, je pense que l'avancement d'Arthur, les promotions prochaines d'Arthur vont peut-être en prendre un petit peu, vont prendre un peu quoi. Arthur n'est pas le seul marin que le monde a pu identifier sur Strava. À bord d'un vaisseau de la Marine nationale en mission ces derniers jours, au moins un autre profil public poste des activités sportives localisées et du même coup l'endroit où se situe le navire. Sur les profils publics, on trouve aussi des photos du pont, d'autres militaires ou encore d'équipements sportifs à l'intérieur des bâtiments. Des indiscrétions qui rappellent celles déjà révélées par Le Monde en 2024. Les Strava Leaks documentaient alors les failles de sécurité liées à l'utilisation de l'application sportive par les gardes du corps des présidents français, américains et russes. Ah oui, vous avez les gardes du corps qui couraient, qui faisaient du sport et qui du coup laissaient leur Strava en public. Il était non seulement possible d'identifier les agents et leurs proches, mais aussi de les suivre et d'anticiper certains déplacements des chefs d'État. En janvier 2025, la Marine nationale était également concernée par l'enquête du Monde. Des membres d'équipage des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins relataient à travers Strava des informations sur le calendrier des patrouilles. On rappelle que le propre d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est d'être discret. Hein. Interrogée à l'époque, l'armée reconnaissait des négligences de la part de personnel qui n'en constituent pas pour autant des failles pouvant affecter les activités de la base opérationnelle de l'île Longue. Ok. Je ne veux pas aller voir les commentaires de lecteurs parce que je vais me régaler. Je vous lis. Non, ça pose question, ça pose question. Pourquoi ne pas juste supprimer le trajet sans en faire un article parce que c'est justement. C'est pas à nous mettre une balle dans le pied. Bah, je pense que Le Monde nous explique dans cet article qu'ils ont déjà prévenu dans le passé le risque par rapport à la sécurité de Macron, par exemple, ou la sécurité des sous-marins nucléaires français. Donc manifestement, l'armée n'a pas intégré suffisamment ces avertissements. Peut-être que c'est le fait que tout le monde en parle maintenant qui va peut-être mettre la pression sur les militaires, quoi. Je vous lis. Pour les raisons de sécurité, me dit Nawal Paris, mon Strava n'est pas partagé, ça donne trop d'infos et d'habitude à n'importe qui, me dis-tu. Alors, je reçois un mail à l'instant. Priorité à l'info. Alors, c'est pas l'armée française, hein. Ok. Bonjour Samuel Etienne, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Papapap. Je suis Papapap chez Papapap. Nous lançons actuellement une campagne pour Léon Bête. Et nous pensons que votre contenu ainsi que votre communauté, c'est vous ça, correspondent parfaitement à cette collaboration. Cette campagne comprend 5 diffusions en direct stream, chacun d'une durée d'1 heure avec intégration de Léon Bête. Si vous êtes intéressé et ouvert à cette collaboration, pouvez-vous nous envoyer votre proposition tarifaire pour ce package? Voilà. Léon Bête, Casino, Paris Sportif. Ok. Eh ben ça va pas être possible. On fait pas ça. Je connaissais pas ça, Léon Bête. Bête, pas bête comme stupide, hein, bête comme le pari. Bon bah pour l'Iran c'est ok. Non je mets en garde d'ailleurs peut-être certains d'entre vous tout ce qui est paris sportifs ça tout ça là c'est les jeux d'argent les trucs comme ça il y a eu des papiers ces derniers mois dans la presse sur l'addiction hein. Là je suis très sérieux c'est aussi pour ça que je vous parle de ça. De l'addiction sur ces trucs-là, vous avez des. Alors c'est principalement un public masculin, plutôt jeune. Hein. Voilà, il y a des jeunes gens, des jeunes hommes, parfois des ados qui contournent l'interdiction faite aux mineurs d'utiliser ces sites, qui se ruinent. Hein. Ouais. Ils te disent merci pour la visibilité pour le coup. Ah oui, Pictaro, vous savez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de leur faire une super pub. Bonne analyse, merci à toi. Ne touchez pas à ces trucs. Hein. C'est super dangereux, quoi. J'ai un cousin, me dit Calamity Bone, il a perdu son mariage à cause de l'addiction aux paris en ligne. Et je sais que c'est pas une blague, c'est vraiment des trucs, c'est. Ouais. C'est très addictif, ces trucs. En fait, super attention à tout ça, quoi. C'est pour ça qu'ici, évidemment, on n'en fait pas la promotion. Au contraire, je fais exactement l'inverse en ce moment. Si vous pouvez éviter de toucher à ça. Et ne pariez pas votre femme, dit Psychochat. Oui, tout à fait. Pas faux. Hein. C'est bof, quoi. Allez, maintenant, on va rendre hommage à ceux qui sont partis. Y a Dramaturge qui me dit, j'ai joué à des jeux d'argent, mais seulement à l'âge où je n'avais pas le droit de le faire, les pertes m'ont vite refroidi. Ouais. Oui, ne pariez pas votre maison non plus, ouais. Tiens, Fabulgar, un camarade de classe, donc on parle a priori d'un mineur, hein. Sauf si tu es en classe prépa, s'est fait mettre à la rue par ses parents. Ah, waouh. Après avoir dilapidé leurs économies sur des casinos en ligne. Ben Gate, un ancien ami du lycée, a fini avec 50 000 euros de dette à cause d'une addiction au casino. Faites attention à vous. Voilà. Pépin Camille, j'ai un voisin qui est accro comme ça. Vous voyez, c'est pas une invention, hein, c'est un vrai sujet. Et oui, comme le dit Aaron Desbois, parier et perdre de l'argent alors qu'on pourrait sauver des petits chatons dans les associations. Alors, j'avais pas pensé à cet argument, mais oui. Les petits chats, les petits chats tout mignons, là. On peut parier sa belle-mère? Non, Draco. Non. Je joue simplement les vendredis 13. Je perds, ça me saoule, mais je comprends l'aspect addiction, me dit Luna. Non, c'est pas possible. Framboise me dit. Je crois, Framboise, c'est une source de qualité. Un camarade de prépa avait parié son prêt étudiant pour l'école. Il a perdu. Il n'a pas pu payer l'école les années d'après. Sérieux? À un moment, il faudrait que la loi puisse plus protéger contre tout ça, quoi. Incroyable, cette histoire. Il a dû partir, me confirme Framboise, et il s'est bien fait engueuler par ses parents. Oh, quel enfer! Donc voilà, évidemment, c'est pour ça qu'on ne fera jamais la promotion de ce genre de site ici. Voilà. On enchaîne avec les morts. La transition est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, on va rendre hommage à deux disparus. Isabelle Mergault, tout d'abord, la comédienne, l'actrice, l'humoriste, la réalisatrice aussi. Et notre ami Chuck Norris. Alors, Isabelle Mergault, pour commencer. Voilà, il y a un très bel article dans Le Parisien, avec un très beau titre. On la trouvait très belle, puisque cette comédienne, cette humoriste, elle était aussi réalisatrice. Elle avait fait un film magnifique. Je vous trouve très beau. Voilà, mais je crois qu'elle n'était même pas venue chercher son César. Et du coup, je crois que tout le monde ne savait pas. Oui, c'est pas l'ami de tout le monde. Il avait des positions politiques un peu particulières. Chuck Norris, ok, d'accord. Mais bon, il nous faisait bien rire quand même. Et donc, voilà, je suis sûr que plein ne savaient pas qu'Isabelle Mergault était aussi la réalisatrice de ce très beau film. Isabelle Mergault, comédienne, humoriste, réalisatrice du film Je vous trouve très beau, est décédée des suites d'un cancer à l'âge de 67 ans. Une grosse tête, parce que. Alors, c'est pas qu'elle avait une grosse tête, mais elle faisait partie des grosses têtes de RTL. Hein. Voilà. Une grande gueule, un cheveu sur la langue. Elle avait un petit cheveu sur la langue. Une chevelure qui tombe aussi en rafale. On aurait pu dire également Je vous trouve très belle à la réalisatrice de Je vous trouve très beau. Isabelle Mergault, disparue des suites d'un cancer à 67 ans, avait du chien. Voilà, écrit le Parisien. En grosses têtes, ils exploseraient d'un rire amical, eux qui aimaient se moquer de ces coupes devenues d'Adam, voire toilettage pour chien, s'amusait un chroniqueur. La classe. Je vous trouve très classe, très vous-même. Isabelle Mergault arbore longtemps une magnifique chevelure nature. On s'en fout de ses cheveux. Enfin, pardon, c'est pas ce qui me. Voilà. Bref, les cheveux. Au cinéma, dans le second rôle, sur les écrans télé, une fois populaire, où ses grands yeux étaient. Pardon, mais. C'est un peu bizarre, non, ce focus sur les cheveux, là. Une fois populaire, où ses grands yeux étonnés ne jouent jamais la promo classique. Cash, armé pour tchatcher. Désarmée tellement nature qu'elle devait parfois s'excuser sur Twitter devenu X quand elle rebondissait un peu trop vite sur une actu ou l'autre. Bon. La rigolote qui zozote, Zazie dans le métro, pour sa poésie lunaire, une porte d'entrée pour découvrir une drôle de fille qui n'avait peur de personne et peur de tout. Ah, il y a une anecdote que je trouve assez mignonne. À son sommet, Thierry Ardisson la reçoit dans Salut les Terriens pour une pièce de théâtre qui sort en DVD. Et là, sur le plateau d'Ardisson, elle dit qu'il fallait surtout pas acheter le DVD pour lequel elle venait faire la promo. Mais elle dit, le théâtre, il faut y aller, pas le voir devant un écran. Ça n'est pas un gag, elle est sincère. Tout le monde mord de rire et stupéfait autour d'elle. Rien que cette anecdote la rend quand même très sympathique. Elle en a, Mergo, sur Twitter, X, pris cher parfois. Elle a tweeté, retweeté jusqu'à fin février. Il la rentre souvent jusqu'au bout, postant récemment au-dessus d'une photo d'ours polaire faisant ses besoins sur la banquise. Et c'est nous, les pollueurs, bien, ben voyons. On a tous notre Mergo, celle des réseaux, celle des planches, celle des plateaux télé, des radios, du cinéma ou de ses romans. Ah, elle écrivait aussi. Les Quinquas et plus l'adorent depuis Prof, film comique de 85, où elle incarne une prof à l'Ouest. Ah oui, c'est vrai, elle imitait le mâle et la femelle tourterelle. Ah, je me rappelle de ça. Attends, 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 attends. Ah, je me rappelle. Elle faisait, ouh, 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 ouh. Ah, elle faisait super bien. Ah, pas comme moi, quoi. Faisait, ouh, ouh, ouh. Un truc comme ça. C'était incroyable. Elle était géniale. Je l'ai, je l'ai. J'ai du son, j'ai du son. Vous êtes prêts? Je me rappelle de ça. Dans le film Prof.
Vous sentez bien la différence qu'il y a entre le mâle et la femelle? Le mâle fait. La femelle fait. Mais à la saison des amours, la femelle fait. Et en plus, elle exécute une petite danse un peu dans le genre.
C'est génial, j'avais oublié, mais la scène est géniale quand même. Alors certains me disent, oui, tournage qu'elle n'avait pas du tout aimé, et vous avez raison, de ce film Prof, et on va en parler dans un instant. Vous avez carrément raison d'en parler. Voilà. Mais la scène est assez géniale en vrai. Les plus jeunes ou enfants des précédents ont grandi avec sa voix quand leurs parents venaient les chercher à l'école en voiture ou non, au son des grosses têtes. Une voix avec un petit truc en plus, il faut un sacré sens de l'humour, de l'aplomb. Pardon, je vous remets l'article, excusez-moi. De l'aplomb et de la volonté qui déplace les montagnes pour décider de devenir actrice avec un chuintement, comme ça. Chut, elle imposera le silence et le respect à tous ses détracteurs. Ses animateurs préférés se feront toujours un plaisir de lui faire répéter à la télé « Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches. » Et elle-même, et son prof de théâtre, quoi? Elle est elle-même, pardon, et son prof de théâtre lui demande de le rester. Zorro contre le zozotement, justice. Donc il y a toute sa carrière. Et alors, il y a des gens dans le chat qui connaissaient l'histoire qui disaient « Oui, le film prof dont vous parliez, elle l'a pas du tout aimé, elle en a parlé d'ailleurs. » Enfin, pas le film, hein, mais les conditions du tournage. Ici, là. Prof de Patrice Schulman avec Patrick Bruel. Et Fabrice Luchini qui la révèle, donc c'est un de ses rôles les plus connus, mais dont elle dira bien plus tard dans les années MeToo que le tournage était resté son pire cauchemar, à en vomir et l'a plongée dans la dépression, pas drôle. Le problème, c'est que l'article n'en dit pas plus. On va aller chercher des infos. Juste après, contre le harcèlement sexuel à une époque où on n'en parlait pas, elle co-signe en 2002, 2002, un manifeste radical en son genre, une légitime défense, plus jamais victime, survival, nouvelle méthode de défense au féminin, avec Isabelle Alonso et Martial Voûte. Agir et réagir à défaut d'être entendu, pardon, 15 ans avant la libération de la parole. Allons voir. Cette histoire de prof et Isabelle Mergault, parce qu'elle dénonce des choses, mais l'article n'en parle pas beaucoup, je trouve. Prof. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un article dans la Voix du Nord, là. Est-ce que j'y ai accès? Ouais, j'y ai accès. La Voix du Nord. Mon pire cauchemar, Isabelle Mergault se confie. Sur le terrible tournage du film Prof. Le film est sorti en 83 et là, elle en parle en 2023. Elle en a parlé longtemps après. L'évocation même du nom du film lui donne 30 ans plus tard l'envie de vomir. Du colère, pardon, de la colère et du dégoût, la comédienne Isabelle Mergault a publié plusieurs tweets vendredi soir, donc c'était en juin 2023, à propos du film Prof sorti au cinéma en 2025. Donc c'est. Des années après. Tout est parti d'un tweet publié par un admirateur ce soir sur Gulli. Il passe prof. On y voit Isabelle Mergault, elle est mignonne, écrit l'internaute en s'adressant à l'actrice. Mais ne s'attendait sans doute pas à sa réponse. Ce film est mon pire cauchemar. MeToo n'existait pas. Dommage. Je n'en dirai pas plus car le metteur en scène est mort. Waouh! Prof qui raconte l'histoire d'un jeune professeur de lettres subversif qui était joué par Bruel. Qui arrive dans un nouveau lycée réalisé par Patrick Schulman, décédé en 2002 dans un accident de voiture. Mais si Isabelle Mergault, âgée de 27 ans l'année de la sortie du film, ne comptait pas en dire plus, elle a tout de même réagi aux nombreux commentaires suscités par son message. Vous ignorez tout du tournoi, j'entends prof, j'ai juste envie de vomir, répond-elle. Ne me parlez plus de ce film, vomir, dépression, dit-elle également. Isabelle Mergault indique d'ailleurs n'avoir jamais vu ce film. Pardon pour la pub. Sans jamais évoquer les faits eux-mêmes, elle esquisse les traits d'un tournage traumatisant, donc c'est plutôt le réalisateur qui semble viser. Une douleur au-delà de l'au-delà, lâche-t-elle. Mais il n'y avait pas que moi, dit encore l'actrice à une personne qui se disait désolée pour vous. Et un autre qui lui dit qu'il n'est jamais trop tard pour parler, elle répond d'un simple si, sans doute parce que le réalisateur est mort, quoi. Isabelle Mergault ne donne pas de nom, mais dans plusieurs messages, elle prend la défense de Patrick Bruel. Patrick Bruel, vous savez qu'on a évoqué cette semaine avec l'enquête de Mediapart sur les agressions sexuelles et les viols dont il est accusé par au moins 8 femmes dans Mediapart. Et elle dit, Bruel impeccable, ce n'est pas lui qui est en cause. Bruel, lui, a toujours été très élégant. Enax, le message que tu viens d'écrire dans le chat. Que j'arrivais pas à comprendre, je voyais pas ce que tu voulais dire. Que je viens de comprendre, Enax. Elle n'a qu'à rendre l'argent qu'elle a pris et donner à une asso. Ce message est monstrueux. Et j'espère que tu vas y réfléchir ce week-end. Tu es en train de dire qu'une femme qui possiblement a été agressée sexuellement ou violée sur le tournage d'un film devrait prendre le cachet de ce film et donner une asso, c'est ta réponse à ce sujet? Je pense que tu faut que tu réagisses, que tu réfléchisses un tout petit peu à cette phrase et à ce sujet globalement. Rappelons ici que, comme le fait la Voix du Nord dans cet article, que le 3919 est un numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences. J'espère que quand une femme parle des violences qu'elle a subies, eh bien elle aura d'autres réactions que le rend l'argent, que je viens de lire à l'instant. Anonyme et gratuit, le 3919 est accessible depuis un poste fixe et un mobile en métropole et dans les DOM. Ce numéro permet d'assurer une écoute et une information et, en fonction des demandes, effectue une orientation adaptée vers dispositifs locaux d'accompagnement et de prise en charge. Le 3919 n'est pas un numéro d'appel d'urgence. Quand on voit le commentaire que je viens de lire, manifestement, il y a encore du pain sur la planche. Voilà. Je reviens à l'article. C'était intéressant d'aller creuser un peu cette histoire qui était évoquée par Le Parisien. Acte 2, l'écriture, parce qu'elle n'est pas que comédienne et humoriste, et sociétaire des grosses têtes. Scénariste, dialoguiste à la télé comme au cinéma pour Meilleur Espoir Féminin. Ah, elle avait fait les dialogues de Meilleur Espoir Féminin. Très bon film, Gérard Jugnot, en 99. One Man Show aussi, CQFD 97. Il restait à parfaire, il y avait peut-être qu'elle pour réaliser Je vous trouve très beau, qui est un très beau film. Ce portrait de deux émotifs anonymes, un agriculteur veuf joué par Michel Blanc, incapable de faire tourner sa ferme et ranimer sa vie sans une femme qu'il trouvera en Roumanie et qui se révélera beaucoup moins intéressée et cynique que lui ne le pensait. Le fameux « Je vous trouve très beau ». Enax revient sur ses propos. Non, my bad, vous avez mal compris, je soutiens entièrement cette femme. Je parle pour marquer justement le coup. Désolé si ça a été mal dit. Ok, Enax, dont acte. Je vous soutiens justement à 100% cette femme. Ok, dont acte, mais tu avoues que ton premier message ne pouvait pas être compris comme tu viens de l'expliquer. Ok. Donc, puisque ce n'était pas du tout ce que tu voulais dire, je me permets de retirer aussi les mots un peu vifs que j'ai eus vis-à-vis de ton propos. Excuse-moi. Plus de 3,5 millions de téléspectateurs plébiscitent ce film d'une hypersensible dans lequel elle n'apparaît pas. Qu'elle ne joue pas dans le film. Isabelle Mergo remporte le César du meilleur premier film 2007, mais ne se déplace pas pour récupérer la statuette, complexe d'infériorité plus que péché d'orgueil. Elle regrettera cette absence. La mère d'une fille, Maya, qu'elle a adoptée en 2010, signe trois autres longs métrages et plusieurs pièces de théâtre, toujours comme autrice, dans lesquelles elle fait jouer Sylvie Vartan, Josiane Balasko. Vient ce sale dernier acte. L'entrée en scène du crabe, donc le crabe, le cancer, Isabelle Margot, touchée par un cancer des poumons, ne s'essouffle pas au point de lâcher les grosses têtes auxquelles elle reste fidèle le plus tard possible jusqu'à la fin 2025. Le 6 janvier, Laurent Ruquier donne de ses nouvelles à l'antenne d'RTL. On pense à elle, on pense tous à elle. Je vous trouve très vrai. Et en fait, c'est le journaliste du Parisien, c'est Yves Jéglé, ah, qui écrit de très beaux papiers, Yves Jéglé. Ce sont les mots d'Yves Jéglé à la fin de l'article pour Isabelle Mergo, on pense tous à elle, je vous trouve très vrai, je vous trouve très drôle, je vous trouve très courageuse, je vous trouve très juste. Cette gouaille à la française, tout un art, tout Mergo, ça ne chuinte pas, ça chante. Le journalisme aussi, parfois, c'est ça. C'est un journaliste ou une journaliste qui trouve les mots pour dire des choses à la fois très justes et très fortes. Et je trouve que la fin de ce papier d'Yves Jéglé est vraiment très très belle, quoi. Le message était moche et donc il a dit oups et on ne peut plus critiquer. Le message était moche parce que, comme s'en est exprimé son auteur, il était mal exprimé. Mais il a très clairement exprimé après. Il ne s'est pas excusé. Il a juste exprimé que c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Dont acte. Je ne vois pas pourquoi on devrait considérer davantage le premier que le deuxième message. Pour une fois que quelqu'un, au contraire, revient sur les propos en disant que c'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Les amateurs de fight sur les réseaux, là, vous faites partie du problème. Hein. Ce genre de réaction, c'est vraiment un des soucis qu'on a en France, quoi. Quelqu'un dit quelque chose, on comprend mal parce qu'il s'est mal exprimé, on critique, il revient, il explique que c'est pas ce qu'il voulait dire, s'excuse, et vous voulez remettre de la violence là-dessus, vous faites partie du problème. Ouais, magnifique portrait d'Yves Jéglé dans Le Parisien. Oui, tu as raison, j'aurais changé complexe d'infériorité par syndrome de l'imposteur dont on a parlé récemment ici. Ouais. Il n'a pas dit oups. Et maintenant, je pense que certains dans ce chat attendent ça depuis le début. Chuck Norris. Et pour le coup, autant l'article du Parisien est plutôt réussi et a attiré notre attention sur des choses intéressantes, autant là, c'est une masterclass de portrait, d'humour, de second degré et aussi un peu d'acidité, puisque le portrait est un peu critique aussi pour une partie de Chuck Norris, en l'occurrence, ses convictions politiques. Voilà. Et on va faire un petit shout-out pour YouTube, parce que je pense que cet extrait peut aller sur YouTube. Et c'est parti, 3, 4. Un grand bonjour amis de YouTube en ce samedi, c'est le week-end, et pourtant la matinée Étienne est encore là ce samedi matin. Vous avez le sommaire sous les yeux, et parmi toutes ces actus, on voulait partager avec vous celle-ci, que vous connaissez sans doute peut-être déjà, la mort de Chuck Norris. Tout le monde pensait que Chuck Norris était plus fort que la mort. Finalement, la mort a eu raison de Chuck Norris. Certains dans le chat en doutent et pensent qu'il va peut-être ressusciter dans les prochains jours. L'article de Libération est plutôt bien écrit, je voulais le partager avec vous. C'est parti. Et je me suis fendu moi-même d'un titre un petit peu hommage à Chuck Norris. Chuck Norris ne meurt pas, il change juste de dimension. Chuck Norris, Walker, Texas Rangé. Walker, Texas, c'était sans doute un de ses plus grands succès, cette série. Voilà. Je vous ai déjà lu cet article hier soir que j'ai découvert quand j'ai appris la mort de Chuck Norris hier soir, mais je voulais vous le remettre ce matin. Qui, pour ceux qui ne connaissaient pas Chuck Norris, qui était-il? Figure du cinéma d'action de série B. Il a incarné sur grand et petit écran le défenseur musclé des valeurs conservatrices de l'Amérique avant de devenir, malgré lui, une icône du web. Avec plein de jolies citations que je trouve ici dans le chat. Enfin, des citations dont des mots inventés sur Chuck Norris. Comme par exemple, peut-être improvisé ici ou pas, mais j'aime bien Holly Drouet, Chuck Norris n'est pas mort, il s'est barré avec la mort sur une île et il reviendra quand il voudra. Il avait 86 ans. Ah, j'avais pas compris la blague. La série, c'est Walker Texas Ranger. D'où le Walker Texas Rangé. Ok, merci, je viens de comprendre. Article signé Léo Soesanto dans Libération. On se pince en l'écrivant, mais oui, Chuck Norris est mort, alors qu'en principe, c'est la mort qui devrait être Chuck Norrisée. La force de l'habitude due à 2 décennies de Chuck Norris Facts, ces anecdotes surréalistes créées par la culture Internet où Norris était impossiblement invincible. Chuck Norris a été mordu une fois par un cobra, après 10 minutes douloureuses, le cobra mourut. Ou Chuck Norris peut diviser par zéro. Des exemples comme ça, il y en a des milliards. Hein. Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini, 2 fois. Allons-y. Les exemples dans le chat, si je vous donne la main, Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris. Vous en avez d'autres? Chuck Norris qui fait pipi face au vent, le vent change de sens. Quand Chuck est dans le cul-de-sac, il ouvre le sac. Chuck Norris ne meurt pas, il est la mort. Chuck Norris a fait le tour du soleil à la nage. Celle-là est magnifique. Netty Netty, Chuck Norris a capturé tous les Pokémon avec un téléphone fixe. Apparemment, ce serait Chuck Norris qui aurait annoncé sa mort. Vous êtes des génies. Chuck Norris ne se couche pas, c'est la Terre qui s'incline à 90 degrés. Rien n'arrive à la cheville de Chuck Norris à part sa chaussette. Chuck Norris, c'est un classique, mais on l'aime bien, ne porte pas de montre, il choisit l'heure qu'il est. Chuck Norris dort avec la lumière allumée, car le noir a peur de lui. Chuck Norris ne se cache pas derrière le sommaire, c'est le sommaire qui se cache derrière Chuck Norris. Merci Mathieu. Chuck Norris ne dort pas, il attend. Chuck Norris ne prend pas l'avion, il le porte. Chuck Norris peut étrangler avec un téléphone sans fil. Quand Chuck Norris boit de l'alcool, c'est l'alcool qui devient ivre-mort. Voilà, on peut le faire pendant des jours. Chuck Norris sait où se trouve Ornicar. J'adore. On peut le faire pendant des jours. Lisons l'article. C'est ce qu'on appelle les Chuck Norris facts, ou comment Chuck Norris était devenu une star d'Internet, quoi. Voilà ce qui devrait rester de l'acteur décédé vendredi à l'âge de 86 ans, mais on a appris sa mort que hier. Longtemps symbole d'un cinéma d'action réganien, viril et bas du front. Parce que Chuck Norris n'était pas que ses blagues, en fait. C'était aussi une carrière cinématographique, et c'était aussi des prises de position politique qui font que voilà, certains ne se retrouvent pas forcément en lui. Lui-même prenait ça avec beaucoup d'humour, en même temps qu'il empochait les royalties d'un recueil de Chuck Norris Facts officiel, sorti en 2009. Je vois des Chuck Norris sait où est Charlie, et c'est pour ça qu'il se cache. Chuck Norris a perdu son alliance, et depuis, c'est le bordel en terre du milieu. Champion du monde de karaté, on va y revenir, ouais, champion du monde de karaté. Chuck Norris a perdu le triangle des Bermudes. Tout le monde sait que Chuck Norris ne vieillit pas, il level up. Chuck Norris a retrouvé la main perdue. Incroyable. La blague en disait long sur la perception du type de masculinité qu'il projetait comparé à ses concurrents d'alors. Stallone était un Marlon Brando frustré sous les biscottos. Schwarzenegger était le surhomme cyborg nietzschéen. Van Damme faisait le grand écart facial. Et Norris, mono-expressif, ce qui n'est pas très gentil. L'homme qui n'aurait qu'une expression de visage. Sans autre qualité que son coup de pied circulaire, était, disons-le, assez ridicule et pas du tout aidé par les navets nanars où il se prit les pattes. Libération rit un peu des blagues avec Chuck Norris, mais nous dit quelque part, on va pas se mentir, les films dans lesquels il tournait, c'était pas des dingueries, quoi. Chuck qui lave le déshonneur de la défaite américaine au Vietnam dans la trilogie Portée disparue, Chuck qui tape du terrorisme palestinien dans Delta Force, et notre chouchou, le parano Invasion USA, où banlieues et centres commerciaux sont attaqués par un commando russo-cubain avec duel final de bazooka dans un couloir. Je vois pas pourquoi un duel de bazooka ne se déroulerait pas dans un couloir. La qualité du doublage français. Alors là, c'est ce qu'on a vu dans l'article hier soir. Manifestement, en France, Chuck Norris avait un doubleur français exceptionnel qui s'appelle Bernard Allan et qui, du coup, avait pris conscience un peu de l'énormité du personnage et en rajoutait un peu des tonnes. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il est très apprécié en France. Voilà, avec le fameux « Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. » Et je ne connaissais pas ce dialogue, hein. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Et moi, je l'ai, hier soir, je suis allé le voir. Et on va se le revoir. Parce que la séquence est exceptionnelle. Si tu te pointes. Parce que, dit par moi, par rapport à la vraie scène, vous allez voir, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Quant au « je mets les pieds où je veux, Little John », et c'est souvent dans la gueule, évidemment, c'est le coup d'après. Hein. Mais regardez celle-ci. Regardez celle-ci, ça, c'est du génie, du dialoguiste, mais aussi de la voix française qui incarne Chuck Norris.
Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Ah, ouais, d'accord.
Je pense qu'il faut la regarder plusieurs fois.
Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Ah ouais, d'accord.
Une dernière fois pour le plaisir.
Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Ah ouais, d'accord.
Et la voix française est exceptionnelle. Aura fait pour la postérité française de Norris. Le bien nommé site Nanarland fera de Norris sa mascotte, ouvrant chacune de ses nuits excentriques à la cinémathèque française, où Grand Rex, par sa fameuse réplique « La voici » de Portée disparue 3, « Je mets les pieds où je veux, Little John », et c'est souvent dans la gueule, c'est l'un des dialogues les plus connus de l'histoire du cinéma. Obligé. Je mets les pieds. Ça, c'est obligé.
Si je... Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Et comme on se l'a dit hier soir, la musique derrière, le papapam des cuivres à la fin, réécoutez avec la musique.
Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Magnifique, magnifique. Voilà. Donc, Carlos Ray Norris, et j'ai appris le vrai nom de Chuck Norris hier soir, qui s'appelait donc Carlos Ray Norris, nous aura fait bien rigoler, et c'est déjà ça, dit Libé, même si ce n'était pas le plan initial de celui que Libé avait décerné comme un cow-boy vétéran hétéro en 85. Alors l'histoire de Chuck Norris, enfin de Carlos Ray Norris, né dans l'Oklahoma, cet ancien timide introverti s'initie aux arts martiaux, à l'armée, et à la fin des années 50 en Corée du Sud, et se pique de compétition de karaté à son retour aux States en 62. Voilà. Enfilant les ceintures jusqu'à un titre de champion du monde, il a été champion du monde de karaté IRL. Hein. Il rencontre et se lie avec Bruce Lee, qui lui offre sa première apparition mémorable sur grand écran dans La Fureur du Dragon. À titre personnel, je pense que c'est son plus grand rôle, qui est un rôle quasi muet, hein. 72, pour y être rétamé et se faire arracher une touffe de poils du torse de Lee. C'est une scène très longue. Je crois que ça dure 8 ou 10 minutes. Hier, on a regardé une toute petite partie. Voilà. Lorsque Lee lui propose le rôle, il demande « Mais qui gagne à la fin, Bruce ?»« Je gagne, je suis la star du film », répond Bruce Lee. Norris lui répond « Donc, tu veux battre le champion du monde de karaté ?» Et Bruce Lee lui répond « Non, je veux le tuer. Voilà. » Voilà. Là, on va évidemment se revoir un extrait de cette scène. Bruce Lee, donc, attends, Chuck Norris. On va pas la regarder en entier parce que c'est très long. Hein. C'est très très long. Mais c'est sa plus grande scène. C'est une scène de 10 minutes. Hein. C'est-à-dire que tu mets 10 scènes comme ça, t'as un film. Ouais. Avec la, oui, l'arrachage de la touffe de poil, ouais. Les jeunes regardaient bien, comme dit. Oh, t'as plein de chiffres dans ton pseudo. C'est reparti. Ah, c'est de meilleure qualité qu'hier soir. Et donc, Bruce Lee, Chuck Norris, là il a le kimono mais il va l'enlever. Et attention, ça va partir sur les poils. Par contre, je comprends pas l'histoire des poils. C'est-à-dire, moi je suis pas contre les poils, hein, mais les poils dans le dos, même à l'époque, le film date de quand 72, c'était possible ça? Tout, voilà. La scène dure 10 minutes. Alors moi je ne connais pas la fin. Je ne connais pas. Putain, il meurt. Il le tue. Attends, on met la fin. Je ne connais pas la fin, moi. Cette scène. Voilà. Et donc, c'est de ça dont parle l'article de Libération. Voilà, qui est peut-être une des plus grandes scènes de Chuck Norris, qui, donc, on vient de le voir, est quand même une scène muette. Hein. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Cette première mort de Chuck, c'est en 1972, La Fureur du Dragon. Voilà. À la même époque, et ça on l'a appris dans l'article de Libération, ça c'est incroyable, on aurait échappé à un autre choc entre titans, hein, puisqu'il a failli affronter Mohamed Ali, l'immense boxeur. Malgré l'absurdité d'un comparatif karaté-box, Norris explique pour 2 millions de dollars, je combattrai King Kong et sa famille. Sauf qu'en fait, Mohamed Ali a finalement pas voulu ce combat. Alors après, c'est pas terminé, hein. Encouragé par Steve McQueen, il décroche des premiers rôles dans Les Casseurs, dans Le Commando des Tigres Noirs, où il arbore pour la première fois sa célèbre moustache. Norris construit son personnage de héros américain autosuffisant qui semble dire stop à l'importation de films de castagne asiatique. Sa vraie revanche sur Bruce Lee. Des kicks, oui, mais en Santiago. Voilà. Une persona qu'il perfectionne dans Œil pour œil, où il a enfin la barbe. En 85, il commet peut-être son meilleur film et succès critique, le polar Sale temps pour un flic, d'Andrew Davis. Mais Norris s'épanouira dans le système de la canon, moule pour gros bras patriotiques avec peu de variations. Indiana Jones, Indiana Norris dans Le Temple d'Or, Chuck versus le serial killer dans Hero. Après la faillite du studio, son étoile pâlit au fil de production et direct aux vidéos de plus en plus irregardables. Mais il rebondit, voici la série qui arrive, avec ce qui deviendra un classique du dimanche après-midi sur TF1, les 9 saisons de Walker Texas Ranger, que les plus anciens, ont peut-être déjà vu ici, où le fameux kick en jean circulaire final pour terrasser le méchant était aussi inévitable que le poulet frite dominical. Même sa barbe a peur de Chuck Norris, elle s'est enfuie sur son torse. On valide. Ce sont aussi des années 2000, les pubs pour du matériel sportif, les produits dérivés, les apparitions parodiques en juge de championnat de balle, par exemple, au prisonnier dans Dodgeball en 2004, ou quand lui-même dans le raout pour ex-musclé 80s Expendables 2 en 2012. Alors certains évoquaient ses prises de position politique, puisqu'il a aussi eu des prises de position politique. En 2008, il publie Black Belt Patriotism How to Reawaken America, manifeste patriotique, où il compare son conservatisme tendance chrétien évangéliste à un coup de pied dans la gueule. Dans le concert de condoléances, se bousculent bien sûr ses ex-collègues comme Stallone, qui parle d'un grand homme, Van Damme, mon ami, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, le Texas pleure son décès, et même le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, parce que tous les deux s'entendaient assez bien, pour qui Norris s'est défendu d'une vidéo électorale de soutien en 2013, donc il y a 13 ans. Vous pensez peut-être, disait le spot, que je suis un homme fort dans mes films, mais dans un environnement difficile comme celui du Proche-Orient, Israël a son propre homme fort. De la nostalgie des années 80, on n'aurait pas forcément retenu le climat Chuck Norrisien des manœuvres israélo-américaines en Iran. Opération Führer épique, il aurait été comme chez lui dans ce film. Voilà pour... Eh oui, bah oui. Bah oui, bah c'est la... Faut-il séparer l'artiste de son œuvre, quoi. C'est toujours le débat. C'est pour ça que je trouve l'article de Libé intéressant, c'est qu'il en... Voilà. Il en parle, il le mentionne, il le dit, voilà. Mais vous noterez que ce n'est qu'une partie de l'article. Voilà. Et ça n'est pas ce qui est mis en avant le plus, même si... Voilà. Il est décédé comment ? Il est décédé... Je ne sais pas. Tué par Bruce Lee, je crois. Cancer ? Alors Isabelle... Mergo, je savais que c'était cancer, mais lui aussi c'est cancer. On ne sait pas, hein, je crois. Hein. Non. J'ai même vu des... Un truc un peu bizarre sur Internet, comme souvent, ouais. Décédé de mort, me dit Mirka. Ça changera pour rien, j'apprécie quand même son œuvre, me dit Alastair. Voilà. Après ses objectifs, son aura a dépassé son véritable talent d'acteur, sa carrière, dit Interfector. C'est un peu ce que dit l'article, quoi. Est-il vraiment mort, demande Defalm. C'est la question que tout le monde doit se poser. Merci les amis. Bon, bah c'est bon. Oh, putain, il est un petit peu... Bon, ça va. C'est un petit peu tard pour le déjeuner du samedi. C'est un petit peu tard pour le déjeuner du samedi, mais ça va encore. Je pense que comme les enfants sont levés tard ce matin, il y a un monde où j'arrive à les trouver pour le déjeuner. Donc, je me dépêche. Merci d'avoir été aussi nombreux. Ce qui est sûr, c'est que demain soir, 20h, enfin 19h30, spécial municipal, deuxième tour sur ma chaîne. Le suspense est quand même assez incroyable. Et donc, je vous retrouve demain soir. Est-ce que ce soir, je fais un petit stream jeu vidéo? Peut-être. Peut-être. Voilà. Merci en tout cas. Qui est en live? On va faire un raid, bien sûr. Qui est en live? Ouais. Ouais. Plein d'amis. Plein d'amis, plein d'amis, plein d'amis. Ah, mignon, ça. Ah, peut-être une petite... Ah, peut-être une idée. Tiens donc. Ah, c'est marrant. Ah, c'est mignon, ça, en vrai. Les amis, vous savez, on a... Alors, j'hésite entre plein de trucs, mais je vois l'ami casquette verte. Coureur, ultra-runner, passionné de course à pied, sur des formats vraiment de fou, qui est en live sur sa chaîne Twitch, pour l'éco-trail de Paris. L'éco-trail de Paris, c'est un trail que j'ai fait une fois, qui fait 80 km, dont l'arrivée est à la... dont l'arrivée est à la Tour Eiffel, que j'ai fait dans mes grandes années. Et là, ils sont en stream là-dessus. Pas mal, hein? Allez, let's go. On va aller voir Casquette Verte. Je crois que c'était mon premier 80 km. Casquette Verte, en live. Il n'est pas sur un porte-avions. Et d'ailleurs, il y a une jolie vue juste en dessous de la Tour Eiffel. Alors... Maintenant, ici, maintenant, quand on fait des raids, on est très prudent. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Pour éviter les incidents. On éteint la caméra. On met la scène de fin. Il ne peut plus rien se passer. Et on fait le raid. Merci les amis. Bon samedi. Bon week-end. À ce soir. Et ou à demain. Et encore merci pour ce matin. Ciao, ciao. Ça, c'est en train de charger là. Mais là, il ne peut plus rien se passer. Ceinture et bretelles. 3, 2, 1...